Tanguy, est-ce que c'est bon pour toi? On peut démarrer?
Après, si la vidéo est...
Bah,
enfin,
je...
on va peut-être...
On n'a pas de streaming vidéo dans l'immédiat, mais on a un streaming audio. Donc, on peut, je pense qu'on peut démarrer.
On ne met pas la pression à Benjamin?
Voilà. Non, non, ben... Oui, ben, on va démarrer quand même, parce qu'il faut qu'on avance un
Ouais.
peu. Il est 14h10, 8.
14h10.
Ouais.
Ok. Merci à tous d'avoir affronté le froid pour venir participer à cet AG aujourd'hui et plus largement à ce week-end de travail de l'April. Donc cet après-midi, c'est l'élément un peu formel du week-end, puisque c'est l'Assemblée générale qui se tient de notre association. Ce sera l'occasion pour vous de vous exprimer sur notre activité passée, aussi bien d'un point de vue des réalisations que d'un point de vue financier. Donc on va vous demander de vous exprimer par vote sur le rapport moral et le rapport financier. Et c'est aussi l'occasion de vous montrer tout ce qu'on a fait et de répondre aux questions que vous avez pu vous poser durant l'année sur nos activités, afin que vous votiez en conscience et que vous soyez des membres de l'April éclairés. On procédera après au vote du futur CA. Et une fois ces formalités réalisées, eh bien, on vous présentera les différentes perspectives pour 2012. Et surtout, on ira faire la fête ce soir à la cantine. Gardez bien vos badges, les badges qu'on vous a remis, puisque ce sera votre droit d'entrée à la cantine. Il se trouve que c'est un lieu où il y a pas mal de passages. Et donc, du coup, on nous a demandé, on nous met à gracieusement, Silicon nous offre l'hospitalité ce soir en échange qu'on veille à ce que les membres et les amis de l'April soient présents, mais que tout le 9e arrondissement ne débarque pas à la cantine pour venir faire la fête avec nous. Donc, c'est un petit peu le deal. Donc, voilà, la méthode de reconnaissance, et ben on arborera son badge. Durant cette soirée. Gardez-le bien. Donc effectivement, c'est streamé. Pour les gens qui sont en ligne, si vous m'entendez, c'est que vous avez trouvé le lien. Si vous ne m'entendez pas, vous le trouvez sur le site de l'April, april.org. C'est également, a priori, microblogué sur Identica et Twitter, si tout va bien. Donc, le hashtag, pardon, c'est AGAPRIL, il me semble. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en ligne, à poser des questions sur les différents dossiers. On essaiera d'être attentif à vos remarques et à y répondre dans la partie des questions. Et si vous êtes là présent ou si vous nous écoutez, n'hésitez pas aussi à parler de cet AG et à nous remonter vos enthousiasmes ou vos éventuels points de vigilance. Donc le programme de cet après-midi, on va vous présenter le rapport moral, le bilan financier, on effectuera l'élection du conseil d'administration, on vous présentera les perspectives de 2012, un budget prévisionnel et puis on ira faire la fête à partir de 19h30. À la cantine, donc c'est entre 14h et 18h qu'on est ici. Avec on aura une pause pour se réchauffer et se mettre un petit peu de caféine dans les veines, voire pire, pour les plus addicts d'entre nous. Je
sais pas pourquoi tu me regardes en disant ça.
Je sais pas. Parce que entre nous deux, tu es sans doute le moins addict de. Où je connais pas mal tes addictions, peut-être. Voilà, alors on va vous présenter notre rapport moral 2011, toute l'activité qu'on a réalisée. Et on va essayer de le faire un peu de manière dynamique. Donc, il y a un certain nombre de personnes que j'ai sollicitées parmi les permanents, parmi les membres du CA ou les membres actifs. Pour présenter un certain nombre de dossiers. Donc voilà. Alors, notre bilan moral s'organise en trois chapitres. La vie de l'association, de manière générale, les actions qu'on a menées sur les dossiers, notamment les dossiers institutionnels, et la troisième partie, c'est toute la vie des groupes de travail qui se réunissent quotidiennement à l'April. Alors, en ce qui concerne la vie de l'association, on était au 31 décembre 2011, 5397 adhérents, qui se décomposent en une très grande majorité de personnes physiques, 4919, 313 entreprises ou réseaux d'entreprises, 151 associations, 6 collectivités locales, 5 départements universitaires, 2 écoles et 1 université. Un des enjeux qu'on a à l'April, qu'on s'est fixé, c'est d'être à l'image du logiciel libre, de représenter aussi bien les développeurs que les utilisateurs, les contributeurs, mais également les partenaires du logiciel libre dans sa grande diversité. Donc c'est pour ça qu'on est assez fiers d'avoir beaucoup de citoyens, mais aussi pas mal d'entreprises. On y reviendra tout à l'heure sur le thème entreprise et économie. On vous montrera quelques chiffres économiques. La réalité économique de nos adhérents, et puis des collectivités locales, des associations, etc., etc. Donc, par rapport à 2010, on a une augmentation de 74 adhérents, 1% de personnes physiques, 5% de personnes morales, 10% d'associations, une nouvelle collectivité territoriale, Toulouse. Et les universités et les écoles d'ingénieurs sont relativement stables en termes d'adhésion. Donc vous remarquez une accélération beaucoup moins importante qu'il y a quelques années en termes d'adhésion aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. C'est un peu la tendance. En termes de répartition géographique, on est présent dans pas mal de pays dans le monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il n'y a pas un département français sans adhérent à l'April. C'est une de nos fiertés. On nous reproche régulièrement d'être une association parisienne. On travaille de manière très active pour que ce ne soit pas le cas. Alors après, quand on fait des relations institutionnelles dans un état jacobin, il se trouve qu'il faut pas mal bosser à Paris, mais on fait aussi énormément de choses dans les départements français, ainsi que dans les DOM et TOM. Alors on nous reproche aussi régulièrement d'être une association d'informaticiens. Vous pouvez voir à travers cette répartition socio-professionnelle qu'il y a des informaticiens. C'est effectivement la profession la plus représentée à l'April, mais elle n'est pas majoritaire puisqu'elle correspond à peu près à un tiers du nombre de nos adhérents. Le deuxième pôle socio-professionnel vient de la recherche et de l'enseignement. Et le troisième, c'est des ingénieurs qui ne sont pas informaticiens. Qui font partie des adhérents. Et puis, évidemment, il y a une très grande diversité, puisque le principal pôle plus important que les informaticiens, eh bien, c'est la grande partie orange qui représente les personnes qui soit n'ont pas indiqué leur profession, soit ont indiqué une profession qui ne nous permettait pas de le rendre ce graphique lisible. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu la diversité socio-professionnelle de notre association. Alors, on a un indicateur qui est assez intéressant, doublement intéressant, c'est le bénévolat valorisé. Le bénévolat valorisé, c'est un outil financier qui permet de valoriser l'activité difficilement valorisable économiquement, qui est l'activité bénévole. Donc, on demande à tous nos adhérents qui font des activités bénévoles en dehors d'un mandat électif de... enregistrer sur le site de l'April, sur leur compte personnel, le nombre d'heures qu'ils ont pu travailler sur les différents dossiers qu'ils ont eu à traiter au sein de l'April. Donc ça permet à chaque type de tâche, il y a 3 grands types de tâches, on a une affectation financière qui permet de valoriser d'un point de vue comptable cette activité bénévole et d'en faire une réalité économique. C'est totalement légal et reconnu par les codes comptables. Alors, ce qu'on remarque cette année, on est à 4300 heures de bénévolat valorisé, c'est un petit peu moins que l'année dernière. Et notre intuition, c'est qu'un certain nombre d'entre nous, et je suis le premier à plaider coupable, et je crois que mon voisin également, on ne remplit pas systématiquement notre bénévolat valorisé. Alors, ça vient de deux phénomènes. C'est que je pense qu'il y a, un petit côté, je suis un peu un con, et donc j'oublie de le faire régulièrement. Et il y a un autre élément, c'est que quand on est administrateur, on est élu, donc il y a tout un tas de nos tâches qui ne peuvent pas rentrer dans la valorisation économique liée au bénévolat valorisé, puisque ça doit être que du bénévolat non électif, donc non lié à une tâche qui a été préalablement attribuée par l'association à travers un vote. Donc voilà, on réfléchit à des mécanismes qui pourraient peut-être permettre de déclarer le bénévolat valorisé de manière un petit peu plus simple, parce que c'est peut-être aussi le constat de cette chute-là, c'est qu'on n'a jamais été aussi actif que ces dernières années, et pourtant, cette activité n'est pas visible à travers le bénévolat valorisé.
Oui, il faut expliquer l'intérêt de ce bénévolat, c'est pas pour suivre ce que les gens font, encore que ça peut nous être utile, mais c'est surtout parce que ça permet de montrer que l'association n'est pas juste une association avec trois permanents payés et qui font tout le travail, et des adhérents qui seraient juste là pour donner une cotisation chaque année. L'association April ne fonctionne que parce qu'il y a des bénévoles qui s'impliquent dans tout un tas de dossiers. Les trois permanents seraient bien incapables de faire l'ensemble des actions et des activités de l'April. Donc c'est important de le dire, et au niveau comptable, ça nous permet de montrer qu'on a effectivement une forte activité bénévole. Et donc pour le problème de ne... Ah, je m'entends dans le PC du monsieur. C'est bien, donc on a un streaming vidéo qui marche. Génial, super, merci messieurs. Donc l'idée c'est que on va essayer de trouver les moyens les plus simples possibles pour remplir ce bénévolat valorisé, peut-être par IRC, peut-être par mail, on va voir. Pour l'instant il faut aller sur le site, c'est pas très compliqué, hein, c'est un tout petit formulaire, mais il faut quand même aller sur le site web, se connecter sur le site et le faire. Donc il y a peut-être moyen de faire plus simple, mais c'est quand même important de le faire. Et voilà, donc moi-même je l'ai pas toujours fait l'année dernière. Parce qu'effectivement, étant secrétaire, on mélange un petit peu les activités qu'on est obligé de faire et qui doivent pas rentrer dans le bénévolat valorisé et celles qu'on fait en plus. Mais voilà, on va essayer de trouver un moyen pour bien différencier ça.
Un certain nombre d'adhérents adhèrent à l'April pour soutenir nos activités, mais n'ont pas vraiment le loisir de s'investir au quotidien dans l'association. Et c'est pour ça qu'on a créé un certain nombre d'outils qui permettent déjà de faire mieux connaître les adhérents très actifs qu'on ne connaît pas forcément. C'est quelque chose qu'on essaye de faire assez régulièrement. On propose à des apriliens actifs de se présenter dans le cadre des lettres mensuelles qu'on envoie. Enfin, bimensuels, et qui sont réunis au sein de cette section des thèmes apriliens. C'est les présentations des différents apriliens. Cette année, il y a eu 4 présentations. Je crois que Agnès, qui fait un travail de relecture assez important, s'est présentée. Elle est active depuis très très longtemps à l'April, et c'est la première fois qu'elle avait un petit peu de visibilité, donc on était content de mettre en valeur son travail qui n'est pas forcément très visible. Il me semble que Jonathan, qui vient d'entrer, s'est aussi présenté dans le cadre de ses présentations apriliennes. Pardon ? Ah, alors ça a été, voilà, donc c'est du teasing en fait, si vous voulez ne pas connaître Jonathan ce week-end, mais le connaître en ligne à travers sa présentation. Ce sera fait dans les prochaines semaines. Et donc, voilà, si vous voulez mieux connaître des adhérents apriliens, n'hésitez pas à consulter cette page-là. Une autre manière, c'est de regarder les photos des apriliens. On a un trombinoscope, et donc vous pouvez découvrir comme ça des apriliens à travers le trombinoscope, ou retrouver des gens que vous avez pu croiser lors des différents événements qu'on a pu organiser, et dont vous ne vous souvenez pas du nom ou du prénom. Le Planète April, qui permet d'agréger les différents flux RSS de nos adhérents qui parlent de logiciels libres, donc c'est pour un peu se tenir au courant de l'actualité du logiciel libre et de l'April. une initiative anonyme qui s'appelle bonjouravril.fr. Tous les matins à 10h avec votre café, vous pouvez avoir une photo assez rigolote de représentative d'une activité aprilienne. Voilà, vous pourrez un certain nombre d'entre nous nous sommes fait bonjouriser et en étant ici, il y a moyen que vous le soyez un jour si vous le souhaitez. Donc, c'est un truc sympa avec le café le matin. Les réseaux de microblogging, donc non seulement lors de l'AG, c'est un outil qu'on utilise bien, StatusNet et Identica, mais on le fait au quotidien, c'est un relais assez intéressant qui permet de faire passer nos idées assez largement. Et puis le plaisir de se rencontrer, pas seulement pour travailler autour des dossiers, mais simplement pour soit boire une bière, soit manger un bout, c'est les pique-niques vaillamment animés par Magali, que je ne vois pas. Elle arrive, qui s'occupe de plein de choses et donc qui est par Mons et par Vola. Et puis une nouveauté cette année, les April Camp, durant un week-end, on s'est réunis trois fois cette année, si mes souvenirs sont bons, pour travailler concrètement autour de dossiers. Alors c'est totalement transversal, c'est à l'initiative soit des groupes de travail qui disent bah voilà, on va profiter de l'April Camp pour travailler sur des dossiers précis. Je pense par exemple aux administrateurs système qui ont fait beaucoup, beaucoup de travail durant ces périodes-là, les transcriptions aussi, enfin, il y a plein de choses. Et puis si vous avez un petit projet, que vous avez pas, il n'y a pas encore vraiment de groupe de travail pour ça, c'est aussi un bon moyen de faire avancer le logiciel libre en s'amusant durant un week-end. L'association est dirigée par un conseil d'administration dont je vais proposer aux différents membres du conseil d'administration de se présenter, ceux qui sont là aujourd'hui. Donc il se trouve que je suis le président de l'April depuis 2 ans, donc je suis Tanguy Morlier, c'est vrai que je ne me suis pas présenté encore. Donc voilà, c'est pour ça que je suis le premier, parce que dans nos associations on a besoin d'une tête, donc je suis la tête jusqu'à présent, ça ne va pas durer, je vous rassure. Et j'ai la chance de travailler avec trois vice-présidents, Rémi Boulle, un Toulousain qui est également référent éducation, prof de maths, qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons familiales parmi nous ce week-end. On a un autre vice-président, Jean-Christophe Becquet. Est-ce qu'on a un micro qui... Voilà. Juste présente-toi en quelques secondes, si tu veux bien.
Bonjour, Jean-Christophe Becquet, je suis membre de l'April depuis quelques années. Je vis à Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence et quelque part dans le gigantesque désert qu'il y a entre Gap et Aix-en-Provence. J'accompagne des associations et des collectivités qui veulent migrer au logiciel libre par chez nous. Et je m'intéresse plus particulièrement aux thématiques éducation avec Rémi et puis le groupe de travail sensibilisation dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Je passe le micro à Sébastien.
Qui est un autre vice-président de l'April, toulousain. Alors, bientôt, nous allons délocaliser l'April à Toulouse, puisque c'est la ville la mieux représentée après la région parisienne.
Et qui, en plus, est membre de l'April.
Et en plus, ville qui vient effectivement d'adhérer à l'April très récemment.
Donc, Sébastien Dino, vice-président de l'April, membre de l'April depuis 1998, OCA depuis 1999. Et je travaille en tant qu'informaticien dans une SS2I où j'ai la chance d'être payé une partie de mon temps pour développer du logiciel libre.
Donc voici, ça c'était les vice-présidents. On a également un bureau constitué d'un vaillant secrétaire co-animateur de cet AG.
Bonjour à tous, donc on s'est déjà vu pour certains d'entre vous. Donc je m'appelle Lionel Allor, je suis secrétaire depuis 2 ans. Et j'essaye d'aider un petit peu Aurélia, qui est notre permanente, qui est en haut là, qui nous fait signe et qui fait tout le gros du travail hein, de gestion des adhérents, pardon, et qui s'occupe de vos cotisations, de vos adhésions, qui répond aux questions. Et moi, j'essaye d'être un petit peu là derrière pour pouvoir la soutenir quand il y a des rushs. Voilà. Là-haut, on a François, François Poulain, si tu as un micro, voilà, si tu veux te présenter, notre trésorier.
Voilà, donc bonjour, moi je suis François, je suis trésorier de l'April. Je suis membre de l'April depuis 2005 et membre du CA depuis 2009, je crois. Actuellement trésorier, je participe à l'April plutôt sur les thématiques de sensibilisation, historiquement. Donc autour des groupes de travail pour produire de la documentation. On a fait par exemple le catalogue libre, l'expo libre il y a quelques années et d'autres choses comme ça. Actuellement je travaille autour des groupes libre association. Et voilà.
Et tu es assisté dans ta tâche de trésorier.
Oui, je suis. Voilà, pour la transition. J'ai failli louper la transition. Donc je suis assisté dans ma tâche de trésorier par un super trésorier, vice-trésorier.
Oui, donc bonjour, moi Benjamin Trigueux, je suis trésorier adjoint et par ailleurs membre du CA de l'April depuis donc 96. Et comme j'ai dit ce matin à ceux qui étaient là, je suis responsable d'un certain nombre de développements, dont le programme qui vous spamme tous les mois si vous êtes en retard de cotise, et d'autres développements sur candidat.fr.
Il n'y en a pas dans la salle.
Non, tout le monde est à jour de cotise. C'est GDTC, c'est gestionnaire des tâches courantes.
Et c'est aussi le développeur principal de la plateforme candidat.fr qu'on va challenger une bonne partie de l'année pour solliciter nos futurs élus au Parlement. Après le CA, donc ça c'était un peu le bureau des membres du CA avec certaines tâches particulières. Les administrateurs, Xavier Antoviac qui n'est pas parmi nous ou... Si, non, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui... Pardon ?
Il est trop tôt, disent.
Très impliqué dans les communautés, il nous aide dans nos réflexions, dans la gestion de notre communication et de comment travailler mieux au sein du CA et comment travailler mieux de manière générale à 5000 adhérents. Donc des réflexions intéressantes et professionnellement, il a créé une entreprise de développement de jeux vidéo libres. Un défi assez intéressant. David Chemouille de la Mafia des Toulousains, qui malheureusement n'a pas pu venir non plus ce week-end, chercheur à l'ONERA d'un point de vue professionnel et qui est assez actif sur le nouveau groupe de travail recherche qu'il a participé à créer cette année. Pierre Cross.
Donc Pierre Cross, moi je suis membre de l'April depuis quelques années et au CA depuis l'année dernière. Je travaille dans une société de services en logiciel libre. J'interviens dans divers cours, divers enseignements à l'université aussi là-dessus. Je fais une émission de radio aussi à Bruxelles sur libre parce que j'habite à Bruxelles. Et voilà, je m'intéresse essentiellement au CA, aux aspects économie du logiciel libre, mais l'ensemble de l'écosystème m'intéresse de toute façon.
Anaïg de Denis, qui fait partie du CA également.
Bonjour, donc je m'appelle Anaïg Denis, je suis membre de l'April depuis 2005 et issue de la communauté nantaise du logiciel libre. J'étais présidente des RMLL 2009 qui ont eu lieu à Nantes. J'ai un peu levé le pied depuis sur le local. Et sinon, ce qui m'intéresse, c'est la sensibilisation et le côté entreprise, vu que je suis permanente de l'association des professionnels du logiciel libre à Nantes depuis un an et demi maintenant.
Voilà. Philippe Paris, notre micro-blogueur en chef aujourd'hui.
Philippe Paris, je viens de Lille. J'ai été très actif au sein de l'association Stinux. Aujourd'hui, avec des personnes qui sont ici présentes, on a créé une coopérative en logiciel libre et on s'intéresse particulièrement aux questions sur les axes de valeur communs qui existent entre l'économie sociale et solidaire et le logiciel libre.
Thématique que vous développez à l'heure actuelle, on y reviendra sans doute dans le cadre des activités Libre Association, le groupe de travail. Et alors, Luc Fievet, il y a à l'April, en fait, la dernière lettre... Alors non, pardon, il y a Jérémy Zimmermann, j'allais l'oublier, désolé, qui n'est pas là avec nous parce que, tout simplement, comme vous... Oui, alors ça, c'est cool. Comme vous le savez, il y a une manif anti-ACTA un peu partout en France. Ça tombe malheureusement pendant notre AG, donc c'est un peu dommage. Donc merci à tous les membres qui ne sont pas avec nous, mais qui bravent le froid réellement partout en France pour faire en sorte que ACTA soit une problématique qui soit mieux comprise, notamment du grand public. Donc Jérémy est dans le cortège parisien avec également Frédéric Couchet, notre délégué général, et un certain nombre d'autres apriliens qui ont dû choisir entre l'AG et les manifs, ou entre l'AG et le froid. Et donc, à l'April, en fait, l'alphabet se termine par F, F comme Luc Fievet. Alors, je te laisse te présenter, Luc.
Donc, je fais partie des quotas non-informaticiens du CA. Je fais de la radio en région parisienne, donc avec une émission qui s'appelle Symbiose sur Radio Libertaire. Également la revue de presse Parler de l'April qu'on fait avec Emmanuel Charpentier, donc un autre
que tu nous présenteras tout à l'heure.
Voilà, je présenterai tout à l'heure. Et voilà, et donc je suis à l'April depuis je ne sais plus quelques années, et je baigne dans le logiciel libre depuis le début de l'April, puisque voilà, je fréquente ces gens-là depuis fort longtemps.
Merci. Alors, il se trouve que il y a pas mal de travail au quotidien qui est effectué par notre équipe de permanents. Notre délégué général, Frédéric Couchet, est en pleine manifestation à l'heure actuelle. Il a été président de l'April, c'est le fondateur, l'un des cofondateurs de l'association. Quelqu'un qui... nous challenge au quotidien en tant qu'administrateur ou membre du bureau et avec qui c'est très intéressant de travailler.
Et des fois, il nous engueule aussi.
Mais c'est quand t'as pas été gentil,
oui,
Lionel.
Oui, c'est ça. Bon. Mais c'est vrai que Fred, c'est un petit peu notre ligne directrice, parce que c'est quelqu'un qui est dans le logiciel libre depuis... très longtemps. Ils ont vraiment démarré au début du logiciel libre. Et des gens comme moi, Tanguy, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi je suis arrivé bien après dans le logiciel libre. J'ai découvert ça quand ces gens-là l'avaient découvert il y a 10 ans avant, quoi. Donc ça permet d'avoir un vrai recul. C'est des gens qui ont tout un historique de la manière dont le logiciel libre s'est développé. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce genre de recul. Et on a aussi notre président, on en parlera après peut-être, Loïc Dachary, qui est
notre membre
d'honneur, dont on pourra dire deux mots aussi.
Parmi l'équipe de permanents, Aurélia Gilardi, que vous avez rencontrée l'année dernière, c'était sa première AG l'année dernière, et cette année c'est la première fois qu'elle gère toute seule une AG. Donc si on se réunit là, qu'on a le droit d'avoir du café, qu'on a de la bonne bouffe, que l'amphi est chaud et tout ça, c'est grâce à elle. Donc merci Aurélia beaucoup pour ce travail. Et quand vous envoyez un mail que vous pensez que personne ne va vous répondre, c'est elle en général qui répond, qui vous envoie des flyers, des stickers, etc. Bref, c'est un travail hyper important. Donc merci pour cette tâche quotidienne, ces tâches quotidiennement réalisées. On a la chance aussi d'avoir une autre femme formidable, Jeanne Tadeuse, chargée des affaires institutionnelles, dont on va apercevoir une partie de l'activité en dépilant tout à l'heure tous les dossiers institutionnels. Pareil, un super travail. L'AG aussi, l'occasion de remercier nos salariés. Donc, Jeanne, merci beaucoup pour ce travail réalisé au quotidien. Et on a eu la chance également d'accueillir deux stagiaires cette année. Vanessa qui a travaillé partiellement sur le catalogue Libre Association. Et Marie Duponchel qui a fait un travail vraiment extraordinaire. Une grande partie de candidat.fr, c'est grâce à Jeanne. Et l'autre grande partie, c'est aussi grâce à Marie. Elle nous a apporté plein de choses. Ça va devenir une avocate brillante, j'en suis persuadé. Et ça a été un plaisir de travailler avec elle durant 6 mois. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est retournée dans sa région lilloise, il me semble, mais je pense que malgré tout on peut l'applaudir parce que c'était aussi une très bonne collaboration. Et puis on n'a pas applaudi notre délégué général, alors on le fait quand même, non? Fred, merci à toi. Alors, il se trouve qu'on a aussi la chance d'être hébergé dans un local, c'est-à-dire que nos permanents ne sont pas dans le froid toute l'année ou sous le soleil, la peau rougie par la canicule. Ils ont la chance d'être dans un local qui nous est aussi bien utile pour les membres parisiens de l'April, puisque c'est un lieu dans lequel on peut travailler et se réunir sur les dossiers. Et donc, on est hébergé par l'un de nos membres qui s'appelle Techlib. Et donc voilà, rue de Rivoli, c'est royal. Et donc voilà, là j'ai également l'occasion de remercier ces adhérents, de remercier tous nos adhérents physiques. Merci à vous d'abord de pouvoir nous aider à avoir 3 permanents formidables et des locaux et pouvoir organiser plein de choses. Et également merci à nos membres entreprises, dont Techlib. On a un outil qui vous PAM régulièrement, mais qui permet de faire plein de choses aussi, qui est l'outil de gestionnaire de tâches courantes. Donc c'est april.org/my pour voir votre environnement d'adhérent, payer vos cotisations, déclarer votre bénévolat valorisé, je vais y arriver. Et si vous avez envie de le déployer pour votre association, il est sur la forge GNA, gna.org/projects en anglais avec un S. /GDTC comme le gestionnaire des tâches, ça peut vous être utile si vous avez un certain nombre d'adhérents dans votre association à relancer régulièrement, gérer des cotisations, etc., etc. C'est un logiciel libre. On a une feuille de route qui guide un petit peu nos activités, donc les activités qu'on va vous présenter dans ce rapport moral ont été un peu guidées par cette feuille de route, avec 4 dossiers phares qui commencent. Le premier de ces 4 dossiers, c'est les 4 dangers, c'est un peu les activités pour lesquelles l'April est le plus reconnu, même si ce n'est pas forcément celles qui nous demande maintenant, enfin qui nous challenge le plus, mais donc les DRM, et on en reparlera notamment à travers le dossier ACTA, brevet logiciel, un dossier très chaud en ce moment, vous allez le découvrir tout à l'heure, la vente liée avec aussi de belles réalisations cette année, et l'informatique déloyale qui est quelque chose d'un petit peu compliqué qu'on aimerait mieux investir. Notamment le fait que vous n'ayez pas le droit d'installer le système d'exploitation de votre choix sur votre téléphone portable, qu'on vous l'interdise physiquement. Ça s'appelle de l'informatique déloyale et ça gagne à être mieux connu. Le deuxième des dossiers phares, c'est l'éducation, avec un gros travail du groupe de travail éducation. Le troisième, c'est l'interopérabilité et les formats ouverts. L'accessibilité, et puis enfin le cinquième de nos 4 dossiers phares que j'ai annoncé, la sensibilisation et la communication grâce au travail réalisé par le groupe de travail sensibilisation. Et puis des dossiers émergents, recherche, avec la création d'un nouveau groupe de travail dont vous allez découvrir le fonctionnement tout à l'heure, et puis marché public où on est, grâce au travail de Jeanne, de plus en plus visible sur la question et auquel on participe à faire émerger une petite doctrine juridique. Et puis il y a des petites innovations réjouissantes au quotidien, un nouveau t-shirt qui a été édité pour les 15 ans de l'April, dont on va avoir une démo dans quelques secondes. C'est inspiré par le premier t-shirt de l'April. Le premier t-shirt de l'April était un t-shirt jaune sur les brevets logiciels, et donc on l'a remis au goût du jour grâce à Antoine Bardelli, qui est un membre actif passionnant, qui fait une grande partie de nos réalisations graphiques et à qui on doit ce gnoufou qui permet de nous rappeler que qu'il faut arrêter avec les brevets logiciels. Et voici le fameux t-shirt jaune-orange, édité pour les 15 ans, qui est... voilà, c'est pour les... Et il y a aussi une version féminine en rouge. Et depuis quelques jours, il est aussi en vente en ligne sur boutique.april.org. Donc pour les gens qui ne souhaiteraient l'acquérir et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, c'est possible en ligne. On fait aussi des revues hebdomadaires. Alors ça, c'est des trucs bizarres. Si vous êtes connecté sur IRC le vendredi midi, vous devez juste halluciner parce que tout le monde commence à parler, alors que ce n'est pas forcément le chat le plus actif de l'Internet. Et donc tous les vendredis on essaie de faire un point sur qu'est-ce qu'on a fait à l'April durant la semaine, et c'est un exercice assez intéressant quand on est membre actif, de faire un petit bilan et puis de voir un petit peu ce qu'ont fait les autres. Et puis si on n'est pas actif, c'est aussi intéressant de voir quels sont les dossiers sur lesquels si on avait un petit peu de temps on pouvait s'investir. Donc il suffit de traîner sur /April sur Freenode pour assister à ces revues hebdomadaires. Les pique-niques, des rendez-vous réguliers grâce à Magali, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui est là maintenant avec son chapeau rouge, et donc voilà, l'une des organisatrices des pique-niques, juste pour avoir le plaisir de se rencontrer. Et puis on s'amuse tous les ans à avoir des poissons d'avril, et donc on avait deux, un abandon de Bercy des suites logicielles de Microsoft et d'Adobe suite aux problèmes de sécurité qu'ils ont eu. Donc on imagine que c'est le truc logique qui menait à leurs attaques de sécurité. Donc on espère que ce poisson d'avril n'était pas totalement une blague. Rêvons. Et puis un autre interne sur le déménagement de l'April, le programmer dans des zones plus fraîche. Et la grosse innovation de cette année, c'est les April Camp, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc durant un week-end, de manière un petit peu agile, pour pas dire désorganisée ou informelle, voilà, c'est la bonne formulation. Eh bien, on se réunit durant un week-end où on essaye de faire avancer le plus loin possible le dossier qui nous est cher en ce moment, et de voir jusqu'où on peut le mener durant ces quelques heures. Donc là, on s'était réunis au Loop, un hackerspace parisien qui a fermé depuis, et puis on s'est réunis plus récemment à la FPH, et je profite de cet AG pour remercier Vincent Calam et la FPH de nous permettre de faire tant de choses dans leurs locaux, parce que c'est un plaisir de se réunir là-bas. Si vous ne connaissez pas la Fondation pour le Progrès de l'Homme et que vous êtes là demain à Paris, vous pouvez venir la découvrir avec nous pour travailler autour de dossiers. Donc merci à Vincent et l'équipe de la FPH pour nous héberger de manière aussi régulière.
On a le wifi, sans le télé. Alors Vincent, Xavier me fait signe qu'on a un Wi-Fi fonctionnel dans la salle, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc vous avez AG_April.
Voilà,
qui est ouvert et qui vous donne accès à Internet.
Qui est ouvert, donc pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez essayer de vous connecter. Merci.
Et puis cette année, ça a été les 15 ans de l'association. Ça fait 15 ans que l'April existe, et grâce à Silicon Sentier et à la cantine, on a pu fêter ça durant tout un dimanche là-bas. Et vous voyez ici l'œuvre d'un des artistes de l'April. Il est trésorier, mais il est également sculpteur en bougie, François Poulain, qui nous a fait cette... Pardon ? Ah, il y avait Vincent Xavier. Ah, bah alors, c'est une œuvre collective, c'est d'autant mieux. Donc voilà, c'était un rendez-vous très sympa de cette année. Et puis, traditionnellement, on envoie nos vœux à toutes les institutions avec lesquelles on a pu dialoguer durant l'année. Donc vous avez à gauche les vœux 2011. Et puis comme les vœux de l'année, on les prépare, on essaye de les préparer un petit peu en amont, en fin d'année, on a préparé cette carte de vœux de droite, qui est notre carte de vœux 2012, qu'on a notamment envoyée à tous les parlementaires. Voilà un petit peu pour la vie au quotidien de l'association. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de rentrer un petit peu dans les détails des dossiers 2011. Alors, on les a triés par ordre alphabétique, mais il se trouve que c'est pas mal, parce qu'en termes d'actualité brûlante, effectivement, aujourd'hui, il y a une grosse manifestation ACTA un peu partout en Europe. Et ce dossier, ça fait longtemps qu'on le traite à l'April. Je crois que le premier post sur notre site date de 2006, si mes souvenirs sont bons. On avait été alerté par la FFII à l'époque sur le fait qu'il y ait cet accord international qui contienne des éléments solidifiant encore un peu plus les DRM d'un point de vue juridique. Donc en sortie de DACI, il nous semblait important d'être vigilant là-dessus. Et voilà, ça émerge 6 ans plus tard dans la société civile. C'est toujours pas entériné au niveau européen. Et on espère qu'avec la mobilisation de toutes ces années et la mobilisation plus concrète d'aujourd'hui, ce projet ne pourra pas voir le jour en Europe. Alors l'ACTA, pour nous, ça pose un triple problème. Il y a tout d'abord un problème démocratique. Il faut savoir qu'au sein de l'ACTA, pour être validé, il doit être validé par les 0 députés, mais qui peuvent quasiment pas amender le texte. Donc ça, déjà, avoir des parlementaires qui doivent dire oui ou non, c'est un petit peu surprenant. Et à l'intérieur de cet accord-là, il se crée un espèce de mini-parlement dont il n'y a aucune gouvernance démocratique, qui se permet de réviser l'accord anti-contrefaçon international en bypassant totalement les institutions démocratiques de nos pays. Donc quelque chose d'assez surprenant. Le danger le plus concret, il y a deux dangers très concrets contre le logiciel libre dans l'ACTA. Le premier, c'est quasiment l'institutionnalisation des DRM, alors qu'on a déjà subi une UCD il y a quelques années, qui a été une directive qui a été votée en 2001 au Parlement européen et qui a été convertie en droit français en 2005-2006. Par la DAFSI, qui institutionnalise les DRM. On sait que les DRM, ça ne marche pas. Il y a plein de rapports, notamment parlementaires, qui démontrent que c'est une aberration. Et malgré cela, on revient par le mode le moins démocratique, l'accord international, pour s'assurer que les DRM, malgré leur inefficacité, soient encore plus reconnus défendus à travers cet ACTA. Donc c'est assez surprenant. Et il y a un deuxième danger, c'est qui touche un peu plus concrètement les développeurs de logiciels libres, puisqu'il y a une responsabilité, l'ACTA veut responsabiliser, c'est un mot toujours très sympa, les intermédiaires techniques. Et il se trouve que les intermédiaires techniques, c'est aussi tous les logiciels libres qui sont mis en œuvre à quelque bout de l'Internet que ce soit, pour leur efficacité. Et donc du coup, ça veut dire que la responsabilité des développeurs de logiciels libres pourrait être sollicitée à travers cet accord, l'application de cet accord ACTA.
Juste pour préciser, c'est pas simplement des risques théoriques, parce que effectivement, on pourrait penser que c'est une problématique très générale qui nous concerne pas directement, mais ça a des impacts très simples que vous pouvez expliquer même au grand public. Les DRM, ça va nous interdire de lire des disques Blu-ray sur des ordinateurs qui fonctionnent sous logiciel libre. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de lire un disque Blu-ray que vous avez légitimement acheté dans le commerce avec des logiciels libres, parce que pour le faire, il faut contourner ce fameux système d'encryptage qui s'appelle le DRM, qui est contenu dans tous les Blu-ray du commerce pratiquement, à quelques exceptions près. Donc ça veut dire que techniquement on sait le faire, on sait contourner ce DRM, mais on n'a pas le droit de le faire et on n'a pas le droit d'écrire des logiciels qui le font. Donc ça c'est vraiment un énorme problème. Et il y a les gens qui développent le logiciel VLC, hein, c'est les gens de Videoline, vous connaissez sans doute, c'est un lecteur vidéo libre, qui justement se battent contre ça, parce que eux ça les empêche techniquement de mettre dans leur logiciel le code qui permettrait de lire les Blu-ray.
Donc les DRM c'est pas fini, contrairement à la petite musique ambiante qu'on entend. On en subit encore les conséquences quotidiennement. Et ça met en danger, très concrètement, tous les développeurs, notamment chez Videoland, mais un peu partout, qui font de la vidéo et qui essayent légitimement de nous permettre de lire des biens culturels légitimement acquis. Sur ce projet-là, on travaille en collaboration étroite avec la Quadrature du Net, qui est, elle, active sur le cœur du projet lié à la neutralité de l'Internet. On dialogue régulièrement avec les eurodéputés, notamment à travers des courriers ou des rendez-vous à Bruxelles qu'on a eu l'occasion d'avoir sur ce sujet-là. Sans doute le dossier le plus chaud d'un point de vue institutionnel, c'est le dossier des brevets logiciels. Et je vais proposer à Jeanne de nous rejoindre pour présenter un petit peu l'actualité autour des brevets logiciels, qui est très intense, qui est très technique, mais en même temps hyper important pour tous les développeurs et tous les utilisateurs de logiciels libres. C'est le plus gros danger, sans doute, contre le logiciel libre. Et il y a un très beau travail qui est réalisé par Jeanne et Gibus, notamment. Donc, je te laisse la parole.
Merci, donc, surtout par Gibus, d'ailleurs, qui a été le premier à vraiment s'impliquer sur ce dossier. Donc, le brevet unitaire, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un nouveau projet européen d'un titre de brevet qui serait applicable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne sans qu'il y ait transposition dans aucun des pays. Alors, dit comme ça, c'est pas un projet qui est problématique en lui-même. Effectivement, pourquoi pas, ça fait partie de l'unification de l'Union européenne. Mais en réalité, c'est une manière de faire entrer les brevets logiciels en Europe, tout simplement parce que le projet de brevet unitaire, il va donner toutes les compétences pour définir ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, ainsi que de juger les brevets ensuite à l'Office européen des brevets. Alors pour ceux qui étaient avec nous déjà lors de la précédente bataille sur les brevets logiciels en 2004-2005, vous vous souvenez peut-être de l'OEB, ils ont une politique très claire en faveur des brevets logiciels. Ils ont poussé, que ce soit par du lobbying, que ce soit par le fait de donner des brevets, alors même que c'est illégal sur des logiciels, ou encore par d'autres pratiques, pour faire en sorte que les brevets logiciels soient légalisés en Europe. Et si on le laisse faire et qu'on laisse passer ce projet tel qu'il est actuellement proposé, tout simplement on se retrouvera avec un office européen des brevets qui pourra dire ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, et qui en plus sera maître de la cour spécialisée des brevets, qui sera le seul juge des brevets. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun contre-pouvoir, plus aucun contrôle démocratique sur ce qui est brevetable ou non. Ça pose de nombreux dangers. Les brevets logiciels, je pense qu'on a tous vu à quel point c'était risqué avec tout ce qui peut se passer aux États-Unis, avec par exemple l'achat en un clic qui avait été breveté par Amazon, avec la barre de progression qui avait été brevetée également. C'est-à-dire que dès qu'on brevette des idées comme ça, on ne peut tout simplement plus tout simplement plus le faire, quelle que soit la manière dont on le fait, sans payer une redevance à celui qui a posé le brevet en premier. Et en plus, on se retrouve avec une situation comme on a actuellement aux États-Unis, avec des patent trolls, donc les spéculateurs de brevets, qui déposent un maximum de brevets ou qui en rachètent, mais qui ne produisent rien ensuite et se contentent de gagner leur vie sur le fait de faire des procès aux gens qui font eux de l'innovation pour leur demander de leur payer quelque chose pour chaque produit, par exemple, qui sort. Donc voilà, c'est un projet qui est effectivement complexe et technique parce qu'il ne parle pas directement de brevets logiciels. Il a quand même un impact très direct et très important pour nous sur ces questions-là. Et donc concrètement, où est-ce qu'on en est exactement ? Donc aujourd'hui, on est au niveau du Parlement européen. C'est-à-dire qu'on a la commission jury, donc la commission des affaires juridiques, qui a dit qu'elle était d'accord et partante sur le projet. Maintenant, le Parlement européen doit encore voter dessus. La date, ça devait être la semaine prochaine, ça a été repoussé au plus tôt, ce sera probablement pas avant juin. On a aussi un bras de fer actuellement qui est assez intéressant, en tout cas pour les juristes, à étudier entre la Commission et la Cour de justice des communautés européennes, donc la CJUE, sur la légalité en elle-même du projet, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun contrôle démocratique ni aucune vérification du fait que la loi est effectivement appliquée. Donc la Cour de justice de l'Union européenne a dit que c'était contraire à la présomption d'innocence et au respect des libertés fondamentales, rien que ça. Donc, du coup, le premier projet avait dû être vu, et même encore actuellement, on a de très sérieux doutes sur la légalité du projet actuel et sur le fait qu'il ne risquerait pas de se faire retoquer par la suite par la Cour de justice, ce qui serait mauvais pour tout le monde parce qu'on créerait une situation assez catastrophique avec des titres de brevets qui ont été donnés et qui maintenant sont plus rendus invalides parce que le règlement ne respecte pas le droit de l'Union européenne, et donc on se retrouverait dans une situation avec une insécurité juridique assez monstrueuse pour les entreprises. Actuellement, donc, on a le Parlement qui doit voter dessus, et aussi le Conseil européen, et donc finalement concrètement les différents États membres, qui eux n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui sont aussi en train de bloquer le projet sur une question qui est beaucoup plus triviale, mais qui visiblement déchaîne les passions. C'est le lieu de cette cour des brevets, où est-ce qu'elle sera placée. Donc c'est Munich, Londres et Paris qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vendredi dernier, il y a Milan qui vient de se positionner aussi, en plus en disant qu'elle voudrait quand même vraiment bien avoir cette cour. Donc la question n'est pas réglée. Il y a déjà eu en fin janvier des rencontres au plus haut niveau, donc avec David Cameron, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy pour se mettre d'accord. Ils ne sont pas encore parvenus visiblement, et donc on va voir ce que ça va donner. En attendant, on continue, nous, d'informer les parlementaires européens, parce que pour le moment, le projet leur est toujours vendu comme quelque chose de très basique. C'est simplement l'unification, ça va pas plus loin. Donc, de leur expliquer clairement quel est le danger. Et on a notamment fait plusieurs courriers, on a pris des rendez-vous et on a proposé des amendements. Et c'est ce qu'on continue à faire pour pouvoir vraiment expliquer et aux parlementaires européens l'importance et les dangers d'un tel projet.
Pardon, vas-y.
Mon micro n'est pas... Ah oui, merci. On peut évoquer deux choses. C'est déjà que il y a eu un énorme travail de fait sur ce sujet. On l'a déjà dit, donc sur le site brevetsunitaires.eu par un bénévole qui s'appelle donc Gibus, et qui travaille sur ces questions-là vraiment pratiquement tout seul. C'est-à-dire que comme c'est des dossiers complexes, qu'il faut s'intéresser au droit européen, c'est vraiment pas à la portée du premier venu. Et donc il s'est vraiment lancé dans cette campagne un peu tout seul. Donc on a essayé de le soutenir comme on pouvait. Mais voilà, c'est vraiment un gros travail d'une seule personne qui a vraiment fait, je vous encourage à aller voir sur le site, qui a fait tout un travail, notamment de découpe des vidéos officielles lors des enregistrements de l'Union européenne, pour bien mettre en exergue un certain nombre de points, un certain nombre de difficultés. Il a vraiment fait tout un travail de défrichage de cette problématique. Donc je vous encourage à aller voir ça et en parler autour de vous. Bien sûr, c'est une problématique qui semble un peu lointaine, mais là aussi, si jamais les brevets logiciels sont validés par l'Europe, ça va impacter gravement l'ensemble du développement des logiciels, pas que les logiciels libres, mais l'ensemble des développeurs de logiciels vont être impactés, parce que en gros, seuls les plus gros vont s'en sortir, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de s'acheter ou de s'échanger des portefeuilles de brevets. Donc évidemment, tous les petits développeurs seront impactés, et alors les développeurs de logiciels libres, qui notamment tous ceux qui travaillent bénévolement, bien sûr, sont totalement incapables de payer des droits pour acheter des portefeuilles de brevets, c'est assez évident. Donc vraiment, il y a un impact majeur.
Pour une illustration assez concrète de ce que ça fait un brevet logiciel, c'est interdit en Europe, même si la Cour européenne des brevets dépose, enfin, enregistre des brevets, mais il se trouve que c'est légal aux États-Unis, reconnu aux États-Unis et au Japon, et que lorsque vous achetez en France un téléphone portable sous un système d'exploitation Android, sachez que vous payez 5 euros indirectement lorsque vous achetez ce téléphone-là. 5 euros va à Microsoft. Ils ont fourni zéro logiciel, mais grâce aux magouilles des brevets logiciels, il y a une entente entre HTC et Microsoft qui fait que lorsque vous achetez un téléphone sous Android HTC, 5 euros du prix du téléphone va chez Microsoft alors qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est un élément assez concret qui permet de voir ce que ça a comme conséquence. Une réaction dans la salle. Juste Luc, on va prendre le micro pour les gens qui nous écoutent. Ça arrive.
Ça vient.
C'est bon.
Je voulais juste préciser qu'on a fait une émission de radio avec Gibus, Jeanne et Marie. Donc vous allez sur Dogmazic, chercher Symbiose, et vous avez une heure d'émission et de discours très bien construits, de gens très compétents. Donc si vous voulez faire un point sur le sujet, on l'a fait il y a 2 mois, donc elle est encore bien d'actualité. Voilà.
Et effectivement, c'est un sujet qui est compliqué dans la profondeur, mais qui peut être aussi rendu intelligible pour des gens qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est que l'informatique. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos remarques, à vous intéresser, tout à l'heure on en parlait, ne serait-ce que relire un document en cours de rédaction, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que vous allez trouver peut-être des formulations un petit peu maladroites qu'on n'aurait pas forcément détectées lorsque on est le nez dans le guidon, mais en plus vous allez, on l'espère, apprendre des choses, et déjà ça c'est super. Alors, un autre dossier, c'est le dossier des entreprises, économie, innovation. Comment on peut faire participer à la vie économique de notre pays en faisant du logiciel libre. Donc, on a la chance d'être la station qui accueille le plus grand nombre d'entreprises du logiciel libre en France. Et donc, on s'est dit que pour mieux représenter cette réalité économique, et pour rendre un peu visible cette activité économique, on allait lancer ce qu'on appelait les indicateurs économiques du logiciel libre. Donc tous les 2 ans, on interroge nos membres sur les chiffres d'affaires, le nombre d'emplois créés, le type de business model qu'ils ont choisi, est-ce qu'ils vendent du service, est-ce qu'ils vendent des produits, est-ce que lorsqu'ils contribuent, quel type de licence ils utilisent, quel type de technologie ou quel type de service ils offrent. Donc voilà, rentrer un petit peu dans la machinerie de la création de valeur économique au quotidien. Et donc voilà, il est sorti cet été. Notre petite fierté, c'est qu'on va bientôt toucher 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est un chiffre qui est quand même pas négligeable, et que nos adhérents ont réussi à créer 5000 emplois en plus de pouvoir financer leur activité de gérant d'entreprise avec des entreprises très variées. On a des coopératives, on en a parlé un petit peu, et puis on a des entreprises de plus grosse taille cotées en bourse. Donc, c'est la diversité du logiciel libre qui s'exprime aussi avec la diversité des entreprises qui nous apportent leur soutien financier, parce qu'elles pensent que notre activité est sur le long terme bon pour leur activité économique. On essaye aussi de maintenir une page qui s'appelle les chiffres clés du logiciel libre. C'est toutes les études économiques qui sortent. On essaie de référencer ça sur le site april.org. Donc, si on vous demande des informations sur la réalité économique du logiciel libre, vous trouverez pas mal d'études là-dessus. Qui retrace un petit peu l'évolution historique de ces dernières années et puis la réalité que ça représente. Je pense notamment une étude est sortie la semaine dernière sur le marché du logiciel libre en France qui serait de 2,5 milliards d'euros. Donc, en plus, c'est une petite fierté, il y a quasiment la moitié du chiffre d'affaires qui est généré grâce à des adhérents de l'April, ce qui est plutôt cool aussi.
Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez utile quand on fait de la promotion du logiciel libre, parce que depuis des années que je fais ça, un des arguments que j'entends systématiquement, c'est Mais si les logiciels sont distribués comme ça, sous licence libre, les développeurs vont mourir de faim. Donc le fait de pouvoir présenter ces études, de pouvoir montrer que non, les développeurs de logiciels libres peuvent gagner leur vie avec du logiciel libre. Simplement, au lieu de vendre des boîtes en carton, ils vendent des services autour des logiciels libres. Ça, c'est très important parce que ça montre qu'il y a vraiment une vie économique qui peut se développer. Ce qui ne veut pas dire que tous les logiciels libres vont pouvoir se développer sur un modèle économique. Il y a des logiciels qui resteront probablement développés uniquement par des bénévoles. Mais ça veut dire qu'il y a tout un tas de logiciels, et notamment tous les logiciels de type professionnel, pardon, peuvent très bien être développés par des entreprises qui gagnent leur vie et payent correctement leurs salariés avec ça.
Par ce thème-là, il y a deux mailing lists, une mailing list plutôt faible trafic qui s'appelle entreprise@april.org et une où on essaye de discuter un petit peu plus concrètement des modèles économiques liés au logiciel libre et les modèles d'innovation qu'implique le logiciel libre. Cette nouvelle mailing list s'appelle Amélie avec deux L comme logiciel libre @april.org. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre les discussions ou à initier des débats. Alors, on est un petit peu en retard, donc on va essayer. On a pris le temps de parler notamment des brevets logiciels, c'est parce que c'est quelque chose d'important. On va essayer d'être un petit peu plus concis sur les autres dossiers. Donc, activité européenne très riche. On a la chance, comme je vous disais, d'avoir une permanente qui, en plus, navigue très bien dans les institutions européennes et donc du coup elle va régulièrement à Bruxelles. On a fait un communiqué sur le fait que la commission ne respectait pas les marchés publics. Ils ont acquis des licences Microsoft pour les postes des différents fonctionnaires européens sans passer par un marché public, ce qui est assez surprenant. On a eu la chance d'être présent à l'assemblée numérique la DG de la commission information et société, celle qui gère l'agenda numérique. On s'est ému de la disparition des standards ouverts dans l'agenda numérique européen, initié par Nelly Kroes. On avait eu accès à un brouillon du document qui le mentionnait de manière assez claire, et il a disparu à travers une bataille interne à la Commission effrénée entre notamment la DG Entreprise, la DG Économie et la DG qui était anti-standard ouvert et clairement lobbyé par Microsoft, et de l'autre côté la DG Compétition et la DG InfoSoc qui, elles, étaient favorables aux standards ouverts. Et il se trouve que les initiateurs de cet agenda numérique ont perdu, puisque Nelly Kroes a perdu son bras de fer et il n'y a plus de standards ouverts à l'intérieur. On a participé au GUL qui s'est monté au Parlement européen. Donc c'est un moyen aussi de solliciter, enfin de sensibiliser les gens à l'intérieur du Parlement européen sur les problématiques du logiciel libre. Et on répond très régulièrement aux consultations européennes, marché public dans les prochaines semaines. On a fait celle sur le droit d'auteur, sur les actions de groupe, qui nous semble un point assez important à développer aussi, notamment pour arrêter avec les aberrations de type banquier, et également l'informatique en nuage, le cloud computing. Interopérabilité. On a coécrit une lettre avec la FUL, puisqu'on a découvert que l'autorité en charge de la concurrence, la DGCCRF, donc qui est censé notamment veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante et de concurrence, d'abus de concurrence en termes de numérique, ne respectait pas ses propres préceptes, puisque le format vidéo n'est pas un standard ouvert et incite très fortement à installer un truc d'un éditeur américain basé dans vers Seattle. Donc voilà, on s'est ému de ça et on s'est aperçu que ils avaient clairement pas des compétences en interne pour traiter de la question, puisqu'ils nous ont dit que ils veillaient à l'interopérabilité puisque c'était compatible avec des systèmes d'exploitation libre, puisque on pouvait avoir un logiciel propriétaire qui pouvait lire les vidéos fournies par le site. Donc c'était assez surprenant. On s'est également inquiété lors de la création de la DISIC, ce DSI, ce directeur des systèmes d'information de l'État, de la disparition de la problématique de l'interopérabilité. Ça nous a permis de le rencontrer, il a essayé de nous rassurer, mais il se trouve que depuis qu'on l'a rencontré, ils n'ont rien fait sur le sujet. Donc on espère que ce n'était pas que de belles paroles pour être gentil avec Jeanne et moi qui étions en face de lui. Par contre, il y a une bonne nouvelle. François Fillon a demandé la généralisation des standards ouverts au sein de l'État lors d'une discussion, lors d'un conseil des ministres. Donc c'est quelque chose qui nous a agréablement surpris. On ne s'attendait pas à ça, puisque a priori ce gouvernement n'est pas forcément très pro-interopérabilité. Mais là, visiblement, il y a des efforts qui vont être faits, et on peut se réjouir aussi d'une question parlementaire qui a été posée par la députée Hoffmann Rispal, députée de Paris, qui a demandé notamment à Bercy comment il comptait implémenter ce vœu de Fillon, de François Fillon. Et enfin, on a fait une réponse sur les problématiques de télévision connectée, puisque ce sera sans doute un enjeu assez important en termes d'interopérabilité, de veiller à ce que les télévisions du futur ne soient pas... permettre une interopérabilité effective. Marché public, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui avançait pas mal à l'April grâce au travail de Jeanne, qui a notamment qui met à jour très régulièrement notre argumentaire sur la question. Donc on vous le rappelle, il est interdit de citer une marque de logiciel propriétaire dans un marché public, puisque ça restreint la concurrence, ça limite au seul partenaire de cet éditeur ou à ce seul éditeur de pouvoir répondre au marché public. Et alors que ce n'est pas aux acteurs publics de choisir qui peut être éligible à un marché. Ils ne peuvent choisir que des solutions en ayant interrogé l'ensemble des acteurs du marché. Donc il se trouve que on a la chance cette année d'avoir pas mal... alors c'est pas vraiment la jurisprudence, puisqu'en l'occurrence le premier cas Nexedi est d'un simple tribunal, donc au sens du droit ce n'est pas une jurisprudence, mais ça participe à une analyse assez intéressante du droit français en la question, ce qu'on appelle une doctrine juridique. Et Nexedi, l'éditeur de logiciels libres basé dans le nord de la France, à Lille je crois, a réussi à faire condamner un acteur public pour avoir imposé une solution de logiciel propriétaire dans un marché public. Et puis là, pour le coup, il y a une vraie jurisprudence du Conseil d'État à propos de la fourniture des services, donc c'est aussi hyper intéressant, et je vous engage à lire ce qu'on a publié là-dessus. Et on a participé à différentes conférences. Et puis, l'année dernière, à la même époque, on vous a informé que quelqu'un nous voulait du mal sur les marchés publics et nous attaquait en justice pour diffamation, puisque nous avions dit que le DSI de la ville de Marseille risquait d'être condamné pour abus relatifs aux marchés publics, puisqu'ils avaient choisi une solution de logiciel propriétaire pour changer tous les postes de la mairie de Marseille. Donc ça lui a pas plu. Par contre, visiblement, sa ville, on a juste rien à, enfin, s'en fiche, puisque elle l'a pas suivi dans ses démarches juridiques. Et donc on est toujours en cours. Ça a pris beaucoup de temps. Visiblement, le tribunal de Marseille est totalement engorgé. Donc on a mis 9 mois à avoir des nouvelles de cette affaire. Et là, il me semble que notre avocat va plaider à la fin du mois ses arguments. Donc on devrait avoir des nouvelles pour 2012 là-dessus. On est relativement serein, puisqu'il y a d'un point de vue purement juridique sur la définition de la diffamation et du dénigrement, il se trouverait que l'avocat de notre contradicteur ne semble pas avoir les bonnes références juridiques pour traiter la question. Candidat.fr, ça a été une grosse activité en 2012. Il se trouve qu'on a fait aussi pas mal de choses en 2011. Il y a eu les cantonales, et notamment 18 conseillers généraux qui ont signé le pacte du logiciel libre. Par contre, il y a eu aussi les sénatoriales, et là, par manque de ressources et par gestion des priorités, eh bien, on a décidé de ne pas les investir. Ça nous semblait un petit peu une tâche un peu trop complexe. Donc voilà, peut-être que lors des prochaines sénatoriales dans 3 ans, on aura du temps pour s'y consacrer. On ne l'a pas rencontré. Et en fin d'année, eh bien, on a commencé la rédaction du questionnaire qu'on va adresser aux candidats à l'élection présidentielle. Le questionnaire devrait partir d'ici les prochains jours et on espère qu'on aura des réponses durant les 2 derniers mois de la campagne pour l'élection présidentielle. Ventelier, ça a été un dossier aussi plein d'actualité en 2011, n'est-ce pas Lionel ?
Oui, alors pour la Ventelier, donc je rappelle très brièvement, je pense que vous connaissez tous ça, mais c'est le fait que quand vous achetez un ordinateur dans le commerce, dans la plupart des magasins, on vous propose systématiquement un système d'exploitation et souvent des logiciels en plus, et vous n'avez pas la possibilité de ne pas les acheter. C'est-à-dire en général on vous vend un package, et donc ça s'appelle la vente liée. Nous on appelle ça la vente forcée, c'est-à-dire qu'on vous force à acheter des logiciels dont vous ne voulez pas, et ça on essaye de se battre contre ça depuis maintenant de nombreuses années. On travaille en partenariat avec l'AFUL qui a monté un groupe de travail qui s'appelle Racketiciel, que vous pouvez trouver sur le web à l'adresse racketiciel.info. Et donc eux s'occupent beaucoup de la partie juridique, c'est-à-dire ils aident des gens qui ont acheté des PC, qui essayent de se faire rembourser les logiciels qu'ils ont achetés et qu'ils ne veulent pas. Souvent il faut aller jusqu'au procès, c'est-à-dire il faut porter plainte et il faut aller devant une juridiction de proximité. Donc ça, ils font tout un travail juridique très important que je vous conseille d'aller voir. Ils ont récemment eu notamment une décision très importante contre Lenovo, qui est vendeur de PC chinois, où ils ont réussi à non seulement se faire rembourser les PC, mais les licences, mais obtenir des dommages et intérêts. L'April, elle s'occupe donc plutôt de la partie sensibilisation et de la partie donc suivi, avec la publication d'une synthèse qui a été rédigée par Jeanne Tadeuse qui faisait le point sur la question. Donc c'est une synthèse qui en quelques pages vous permet d'être bien à jour sur la question si jamais vous devez parler de cette question. On a récupéré sur le wiki de l'April, avec l'aide de plusieurs membres, 101 exemples de publicité sur lesquelles, les publicités que vous trouvez dans les supermarchés, hein, typiquement les petits dépliants qu'on vous distribue dans les boîtes aux lettres, ou des publicités postées sur les affichages publics. On vous vend des ordinateurs, on vous dit fourni avec Windows. Donc ça, c'est très utile parce que un des arguments de nos contradicteurs en justice était de dire, mais non, les gens ont le choix, ils peuvent acheter des PC sans rien, nu, on appelle ça, sans logiciel. Et donc, grâce à ces systèmes de collecte de publicité, on aide à avoir des arguments pour montrer que non, le commun des mortels n'a pas le choix. Il faut vraiment être un geek, quelqu'un déjà de bien spécialisé pour avoir repéré quelques boutiques qui effectivement vendent par exemple des logiciels avec un OS libre. On a donc eu des réactions suite aux propos du ministre Éric Besson qui expliquait qu'en gros la Ventelier c'était pas vraiment un problème. Il avait au début de son mandat fait des propositions pour 2012 où la Ventelier, il y avait 2 points sur la Ventelier qui devaient être traités. Et puis c'est parti à la trappe, ça n'a jamais été traité. Et quand on lui a reposé la question ensuite pour ces nouvelles directives, voilà, pour lui c'était un problème qui était réglé. Or nous au quotidien on constate que c'est pas réglé et que les gens n'arrivent toujours pas à acheter de PC, notamment de PC portables sans OS propriétaire. Donc il y a eu un projet de loi consommation qui est passé il y a quelques mois devant le Parlement français, et on a à cette occasion pu constater que donc il y avait quelques députés qui se saisissaient de la question pour dénoncer encore une fois cette problématique de la vente liée. Donc il y a eu des amendements qui ont été déposés pour l'interdire, notamment ça a été avec le soutien de l'UFC Que Choisir.
qui a poussé dans ce sens-là. Et donc, il y a eu un débat à l'Assemblée où cette question a été évoquée. Donc ça, c'était pas mal que ça arrive. Mais le problème, c'est que du coup, ces amendements ont été déposés, mais n'ont pas été votés. Donc
alors, on est reparti pour un tour. Sur ce, il y a eu un débat assez intense, enfin assez long, d'un point de vue le cœur, ça faisait pas partie du cœur du projet de loi. Donc avoir quasiment une demi-heure de débat là-dessus. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des opposants à l'aventier dans tout l'hémicycle. Il y a eu des députés de droite comme de gauche. Je pense à Lionel Tardy et Laure de la Raudière à droite, et à gauche, il y avait François Braut et Marietta Caramanli, il me semble, si je ne me trompe pas, pour le Parti Socialiste, par exemple, et des centristes comme... Jean-Denis de Sedur, il a dit des conneries. Mais... voilà, c'est un thème qui semble, avec encore un petit peu d'insistance, être relativement consensuel parmi les parlementaires. Malheureusement, ce n'était pas le cas au sein du gouvernement. Donc là, on peut un peu se surprendre qu'il y avait une forte volonté de l'exécutif en 2007. Et là, visiblement, ils ont été bien lobbyés parce que au moment où il y avait moyen de légiférer, ils ne l'ont pas fait. Donc le problème est plutôt de contrer l'activité de lobbying de Microsoft dans l'exécutif que au sein du Parlement. Autre point malgré tout assez important, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle très explicitement qu'il faut de l'affichage. Le minimum, c'est l'affichage des prix des différents produits qui vous sont vendus. Donc il faut avoir l'affichage des prix des systèmes d'exploitation et des différentes licences de logiciels propriétaires qu'on vous force à acheter. C'est le vraiment minimum et ce qui a été rappelé par la Cour de cassation.
Donc, et qui n'est pas pratiqué dans les faits, puisque vous pouvez aller dans n'importe quel magasin, vous ne verrez jamais le prix de Windows, par exemple, dans le package qu'on vous vend.
Donc ça vaut la peine de continuer le combat de Maquisard et d'aller dans les tribunaux de proximité porter plainte sur ça, puisque non seulement les prises de décision sont constantes des différents juges, mais en plus, on a une jurisprudence en termes d'affichage. Autre dossier institutionnel, les DRM, qu'on traite pas mal avec ACTA, mais en plus, on a soutenu la journée mondiale contre les DRM. On a, grâce au groupe de travail éducation, rappelé que c'était pas le lieu de l'éducation nationale d'utiliser des DRM, notamment dans le cadre des livres numériques, offerts avec beaucoup de guillemets. Aux élèves ou aux professeurs, et ni de faire la propagande pro-DRM dans les écoles. La création du Conseil national du numérique, c'est l'instance qui remplace le Forum des droits de l'Internet, auquel on a beaucoup participé dans le passé, qui était un lieu collégial dans lequel on pouvait rencontrer tous les acteurs de l'Internet, des acteurs associatifs comme des acteurs commerciaux. Donc c'était un lieu assez privilégié de dialogue. On s'est un peu ému, comme vous le voyez dans le point suivant, de sa disparition. Et il se trouve qu'ils ont créé à la place un organisme dont on a participé à travers une réponse aux préconisations données par Pierre Kosciusko-Morizet, entrepreneur du web, qui a des filiations familial avec la ministre puisque c'est son frère, et on s'est ému du fait que le Conseil national du numérique ne représente que les entreprises. Donc de notre point de vue, c'est un peu l'institutionnalisation d'un lobby, puisqu'il n'y a que les entreprises commerciales de l'Internet qui sont représentées au cœur de l'État puisqu'ils sont dépendants de Bercy. Donc c'est assez surprenant, et ils peuvent donner des préconisations sur tous les projets de loi ayant attrait au numérique. Donc voilà. Le Forum des droits de l'Internet donc a disparu, mais sa disparition a permis quelque chose d'assez positif malgré tout, c'est assez étrange, mais tous les contenus qui ont été produits depuis la création du Forum des droits de l'Internet ont été libérés, puisqu'ils ont été diffusés sous une double licence libre, GFDL et licence art libre, donc c'est assez sympa. Et puis, on a aussi fait des appels à soutien contre l'OPSI 2, ce projet de loi assez tentaculaire sur la sécurité, qui visait notamment à interdire des sites Internet sur simple décision au début de l'exécutif. Et donc, ce qui voulait dire que, bah, typiquement, on pouvait imaginer des logiciels de diffusion de la connaissance de type pair à pair qui pourraient être interdits par le ministère de l'Intérieur, comme il en a été, comme il en a eu la volonté autour de 2006 lors de la DAFSI. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et puis, il y a un autre, un peu anecdotique, mais ils ont quand même inventé la labellisation des logiciels. Pour un certain nombre de choses, et donc du coup ce qui disqualifie au moins partiellement le logiciel libre, notamment en termes de sécurité, alors que c'est quand même une partie de notre expertise dans notre communauté. Voilà donc pour les dossiers institutionnels. On va essayer de vous présenter maintenant l'activité réalisée dans le cadre des groupes de travail, en commençant par le groupe de travail accessibilité.
Ok, alors je vais passer relativement vite là-dessus parce qu'on a déjà pris un peu de retard, comme souvent. Donc, ce que je vous encourage, c'est déjà, si certains de ces groupes de travail vous intéressent, c'est de venir nous en parler après l'AG. Et surtout, l'idée, c'est que vous puissiez aller voir sur le site, évidemment, de l'April, les activités de ces différents groupes. L'accessibilité, c'est un sujet qui est assez important. Parce que ça permet déjà à des gens qui ont, par exemple, des déficiences visuelles ou auditives, de pouvoir accéder au contenu, notamment au contenu des sites web. Mais ça permet aussi, du coup, de mieux vérifier tout ce qui est interopérabilité, respect des standards du web, etc. Donc ça, c'est un groupe très actif. Il y a des gens très intéressants dedans. On a fait une conférence encore récemment à Lyon-sur-Mer, avec une personne qui est aveugle, qui est membre de ce groupe et qui a pu expliquer un petit peu les difficultés qu'il pouvait avoir, par exemple, pour aller sur certains sites qui sont, je sais pas, par exemple, en flash, tout simplement. Donc voilà, ils ont beaucoup d'activités et je vous encourage à aller voir sur le site les détails si ces sujets vous intéressent.
De travail administration système, dont on a un représentant émérite, Vincent-Xavier Jumel, qui est l'un des bénévoles hyperactifs sur ce sujet, avec Théocrite Olivier, qui n'est pas parmi nous.
Voilà, et puis d'autres personnes qui sont présentes dans la salle. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette année, on s'est réunis plusieurs fois lors des April Camp, lors de différents sprints. Ça a été l'occasion de remettre à plat le système de mail. J'espère que vous n'avez pas trop vu la différence, si tout s'est bien passé. Et enfin, comme on l'avait annoncé, comme Théocrite l'avait annoncé lors de la dernière AG, d'éteindre le serveur historique de l'April. Donc ça a été la grosse réalisation de cette année. Et pour 2012, bah, on va consolider tout ce qui a été fait cette année, en particulier autour de la duplication des services pour gérer la redondance. Voilà.
Merci en tout cas pour toutes ces tâches qui ne sont pas très très visibles. Et ayons une pensée émue pour Mescaline, qui effectivement nous a quittés cette année. C'est un serveur qui a été très très valeureux durant 15 ans quasiment. Et voilà, merci à Mescaline.
Alors ensuite, on passe au groupe de travail animation. L'animation, c'est la manière dont les membres de l'April peuvent interagir ensemble sur un certain nombre de dossiers. Donc, on a mené la...
Peut-être le mieux, c'est juste de renvoyer les adhérents au guide qui explique vraiment bien comment oui. être bénévole. Ils font vraiment plein de trucs. Les pique-niques, on en a beaucoup parlé, mais comme on est un peu limite...
D'accord, ok.
Voilà, c'est vraiment un super boulot. Merci notamment à Aurélia et à Bouki.
Qui font des signes au fond de la salle.
Ah oui, alors effectivement, dans l'atelier animation, il y a des ateliers GNU Art qui permettent de s'amuser tout en manipulant le libre physiquement. Et donc voilà, c'est le dernier plaisir du groupe animation. Alors, il y en a une le 26 pour les gens qui sont en ligne et qui veulent participer le 26 février. Le seul truc, c'est qu'il faut s'inscrire. Puisque pour pouvoir monter dans nos locaux. Bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi, mais il faut s'inscrire. Ah, c'est selon le nombre, effectivement, on fera ça dans notre local ou dans un autre lieu. Très bien, c'est une très bonne idée. Paris et Lille, oui, l'April n'est pas que parisienne. Ah, il y a des gnous lillois, c'est magique. Peut-être vendu lors de la prochaine braderie de Lille, ce sera le... Bon, je ne sais pas, c'est un peu bête. Alors, qu'est-ce qu'on fait autour de l'éducation, dis-moi Lionel.
Oui, parce qu'il faut, il faut aller vite, mais bon...
Il ne faut pas tout oublier quand même.
Il ne faut pas tout oublier. Alors, dans l'éducation, donc, il y a un groupe qui est animé par Rémi Boulle, qui est donc l'un des membres du conseil d'administration. Et il y a pas mal de gens qui travaillent aussi bien dans l'éducation nationale que qui travaillent dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire tous les gens qui essayent de faire de la formation, y compris pour adultes. Et donc, il y a eu un cahier pour candidat.fr qui a été rédigé. Il y a eu des listes de manuels scolaires libres qui étaient disponibles. Il y a eu une petite, une petite distribution de tracts qui a été faite au Salon de l'éducation. Qui a eu lieu il y a quelques mois parce que on avait appris que l'ensemble des inspecteurs de l'éducation nationale étaient convoqués dans les locaux de la société Microsoft. Et donc ça nous a semblé un petit peu curieux que l'éducation nationale, qui est censée être neutre, notamment au niveau des marques et des entreprises, soit comme ça, se réunisse dans les locaux de la société Microsoft. Donc on a été distribué un petit tract pour mettre en garde les gens sur ce qui nous semblait être quelque chose d'anormal. Et puis, on a la problématique d'Adopi. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le brevet des collèges, donc, qui est un petit examen que les gens doivent passer, que les élèves doivent passer. Et on, subrepticement, on leur pose des questions qui ont trait à la loi Adopi, au respect des droits d'auteur, etc., sans jamais leur parler des licences libres, des logiciels libres et du plus généralement du partage de la connaissance. Donc il y a une espèce de fixation qui est faite dans l'éducation nationale sur c'est mal de copier, c'est mal de donner une copie à mon voisin ou à mon copain, alors que nous on essaie d'expliquer exactement l'inverse.
Il y a sur l'éducation, c'est très compliqué de faire des choses qui soient positives pour le libre. C'est des combats quotidiens de tous les profs. Mais il se trouve qu'il y a quand même une nouveauté assez intéressante, qui est l'introduction d'une spécialité optionnelle, l'informatique, sciences numériques, si je me trompe pas. Et cette nouveauté, on la doit en grande partie à quelqu'un qui est dans la salle et que j'aimerais remercier. C'est Jean-Pierre Archambault, qui est président de PEI.
Merci.
Et voilà, c'est des gens qui, comme Jean-Pierre, qui se battent depuis des années pour faire reconnaître l'informatique comme une science et que donc du coup on arrête de l'apprendre comme une technologie qui soit juste quelque chose, un clicodrome, mais qu'on commence à réfléchir autour du numérique pour éclairer les gens et montrer que le numérique, ça peut aussi être politique au sens de la société. Et donc voilà, donc merci Jean-Pierre pour ce travail et j'espère qu'on aura encore plein d'occasions de travailler ensemble et en bonne intelligence sur ces sujets.
Et juste pour finir, il y avait donc les logiciels libres à partager sans compter, ça fait partie des actions de sensibilisation. Le groupe sensibilisation a produit plusieurs affiches qui sont liées notamment à l'éducation et qu'on incite les gens qui travaillent dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement en général à utiliser ces affiches pour faire parler un petit peu du logiciel libre dans l'enseignement.
Libre Association, on va voir, il y a eu pas mal de travail qui n'est pas forcément très visible. J'invite François à venir nous présenter très rapidement le travail qui a été fait autour du catalogue libre, du partenariat qu'on a avec le Crédit Coopératif. Et quels sont les dossiers se sont vus initiés dans ce projet-là depuis les dernières semaines.
Donc le groupe de travail Libre Association, c'est un groupe de travail qui s'est monté il y a quelques années, notamment sous l'influence de Vincent Calame, qui est là-bas en violet.
Encore lui.
Et de Laurent Costi, donc Vincent Calame de la FPH, on pourra en reparler, et de Laurent Costi, qui actuellement travaille à la CNAGEP, je crois. Fédération des MJC de Dijon, voilà, et qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et donc le groupe de travail depuis longtemps s'évertue à faire la promotion du logiciel libre dans le monde associatif et on a contracté donc fin 2010 un partenariat avec le Crédit Coopératif pour imprimer un guide d'usage du logiciel libre à destination du monde associatif Donc actuellement, le guide est en cours de rédaction et puis bah, on pense le publier dans l'année. Quoi, ça, voilà, ça va bien passer. Et on a aussi un projet qui est venu se greffer un petit peu annexe dessus, de distribution de clés USB en fait. On a un autre partenariat avec le Crédit Coopératif sur la distribution de clés USB qui contiennent des logiciels libres pour Windows et une distribution GNU Linux dessus avec des logiciels libres pour découvrir un peu. Et donc on travaille là-dessus avec Framasoft, c'est le système de Framaquet que vous connaissez peut-être. Voilà.
Et donc une nouvelle consonante au groupe de travail libre association autour de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a effectivement beaucoup de parallèles entre la vie associative et comment faire participer à une vie économique équilibrée. Une nouveauté 2011, un groupe de travail autour de la recherche, et j'invite François Boulogne, qui a été très actif et que je remercie pour son activité en tant que maître wiki, mais également maître chercheur. Donc,
merci à toi. Moi, je ne suis pas encore chercheur, je suis juste doctorant. Le groupe recherche, c'est un groupe qui est tout neuf, tout jeune, puisqu'il date de novembre dernier, donc qu'on a fondé avec David Chemou, donc qui est pas là aujourd'hui. Donc quels sont les buts un petit peu de ce groupe? Alors bien sûr, c'est de promouvoir l'utilisation du logiciel libre dans le monde de la recherche, hein, ça semble être une évidence. Mais il y a aussi d'autres choses qui tournent principalement autour de la production scientifique. Alors la production scientifique, disons qu'il y a trois types de production. Il y a la production d'articles qui sont publiés dans des revues internationales où en fait les chercheurs communiquent leurs découvertes. Il y a des productions de type logiciel, donc là ça concerne plutôt une partie des chercheurs. Et puis vous avez aussi des productions de données, donc des données expérimentales notamment. Et donc tout ça, ça va en fait être un petit peu notre background, puisque on considère que les valeurs du logiciel libre devraient être un petit peu appliquées à tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir que la publication scientifique, en fait, il y a un transfert de droits d'auteur aux grands éditeurs, et donc les éditeurs possèdent en fait tout le savoir scientifique actuellement et revendent ce savoir aux universités à des prix qui sont exorbitants. Donc ces actualités qui sont extrêmement chaudes, hein. Par exemple, très récemment, il y a eu donc une pétition par des chercheurs de Cambridge contre Elsevier, qui est un très grand éditeur scientifique. Concernant justement là-dessus, donc nous, on essaie de promouvoir donc de l'open access. Et par exemple, il y a aux États-Unis donc une nouvelle menace qui apparaît, donc dans la lignée de ACTA, PIPA, SOPA, donc toutes les lois en A. Donc c'est le RWA, pour Research Works Act, qui interdirait la publication dans des revues open access. Je pense qu'il va y avoir des dangers qui vont émerger, notamment dans la recherche. Donc il y a aussi de l'open data, sur lequel l'April s'est beaucoup investi donc dans ces dernières années. Là aussi, dans le groupe recherche, ça serait quelque chose auquel on veut réfléchir. Et donc la production de logiciels au sein de la recherche, on aimerait que cette production soit valorisée, et actuellement c'est vraiment pas le cas. Voilà.
Donc plein de dossiers en perspective grâce à ce nouveau groupe de travail, et vous pouvez rejoindre la liste de discussion recherche@april.org ou regarder la catégorie recherche sur le wiki, qui vous permettra de découvrir un petit peu les activités concrètes qui sont faites par le groupe de travail.
Alors ensuite, il y a la revue de presse. La revue de presse, j'en ai parlé un petit peu ce matin pour ceux qui étaient là.
Il me semble que Luc va nous...
Vous présenter. Ah bah génial, pardon. Excuse-moi, j'étais sur ma lancée.
Puisqu'il va nous présenter un peu l'innovation. Vous suivez peut-être la revue de presse d'un point de vue hebdomadaire. Et il y a une petite innovation qui fait partie des spécialités de Luc.
Alors, pour rappeler vite fait, sur la revue de presse, il y a donc Emmanuel Charpentier qui fait la sélection d'articles qui lui semblent intéressants. Donc je vous rappelle que vous pouvez tous remonter des articles dans la revue de presse au travers d'un formulaire ou sur IRC ou ce genre de choses.
Et ensuite, Emmanuel et moi, nous enregistrons un podcast de, enfin, une émission même de 15 minutes qui est diffusée sur Divergence FM le jeudi et qu'on met normalement sur Dogmésique. On a un peu de retard, mais on va se remettre d'aplomb là-dessus. Et voilà où on commente l'actualité. On n'est pas complètement omniscient, donc s'il y a des sujets que vous maîtrisez, quoi, c'est ouvert et on est toujours, on sera toujours content d'accueillir quelqu'un qui connaisse un sujet et qui pourrait commenter des articles ou des choses comme ça.
Le groupe de travail sensibilisation qui fait pas mal de boulot, on a parlé de l'affiche tout à l'heure, diffusez vos documents sous licence libre, qui pourrait notamment aussi être diffusé dans les partis politiques. J'ai entendu parler de problèmes assez honteux d'attaques de photographes dans des partis politiques qui cherchaient à faire condamner les militants qui mettaient des affiches de leur parti sans payer des fameux droits d'auteur.
Le groupe sensibilisation, c'est un groupe qui est indispensable, transversal et sympa. C'est pour ça qu'il faut absolument le rejoindre. Indispensable parce que le groupe sensibilisation, c'est la meilleure incarnation de promouvoir de la tagline de l'April. La tagline de l'April, c'est promouvoir et défendre le logiciel libre. Le groupe sensibilisation, c'est vraiment l'outil, le support pour pouvoir promouvoir le logiciel libre. Transversal parce que sur tous les groupes précédents, vous avez vu quand on parle d'éducation, on cite l'affiche logiciel libre dans l'éducation. Quand on parle de libre association, on parle du guide libre association. Donc en fait, cette démarche de production d'outils de sensibilisation, elle est transversale à toutes les thématiques. Et sympa parce que c'est très intéressant de partager des compétences à la fois de graphiste, de PAO, à la fois des compétences rédactionnelles, à la fois des compétences pédagogiques sur un sujet qu'on maîtrise pour faire connaître au plus grand nombre le logiciel libre. Donc si vous vous intéressez plus particulièrement ou si vous connaissez plus particulièrement si vous êtes spécialiste, par exemple, des associations de défense de l'environnement, ou si vous connaissez bien le monde du journalisme, ou si vous connaissez bien un univers qui n'a jamais été investi par l'April et que vous voulez travailler à un support pour faire connaître le logiciel libre et ses enjeux à cette cible, ben, vous rejoignez simplement le groupe Libre Association. Et on a réussi donc cette année à faire émerger des beaux projets comme l'affiche, les deux affiches que vous avez sous les yeux, l'impression à 7500 exemplaires du catalogue 26 logiciels libres à découvrir. 26 logiciels libres à découvrir, quand on appelle ça un catalogue, en fait c'est beaucoup plus qu'un catalogue. Les 26 logiciels à découvrir, c'est juste un prétexte pour glisser subrepticement tout un tas de très court texte de sensibilisation aux différents enjeux du logiciel libre. Voilà, donc on a déjà des très très belles productions et y a plein de projets sympas en cours. Et pour finir, donc à la fin 2011, l'animation du groupe sensibilisation a été prise en charge par Antoine Bardelli, qui me succède dans cette fonction, qui se donne beaucoup de mal et beaucoup d'énergie, qui est l'auteur aussi des graphismes que vous avez sous les yeux. Et je vous invite voilà, vraiment à rejoindre ce groupe qui est indispensable, transversal et sympa. Merci.
Et donc une bonne manière de valoriser ces activités-là, c'est d'utiliser ces différentes productions. Traduction, rapidement.
En traduction, en deux mots, on a un groupe qui fait de la traduction des documents de l'April, mais aussi d'autres documents libres, vers les langues autres que le français. Donc essentiellement l'anglais, parce qu'on a la chance que le groupe soit dirigé par Marc Chauvet, qui est un locuteur natif en anglais. Et on a aussi eu quelques documents qui ont pu être traduits en espagnol et en arabe. Donc c'est un groupe qui a toujours besoin là aussi de bonne volonté pour pouvoir aider à relire. Donc si vous vous débrouillez bien dans une langue autre que le français, vous êtes les bienvenus dans ce groupe.
Et donc effectivement, merci à Marc qui fait beaucoup de boulot, et je pense aussi à Jeanne, on parle encore d'elle cette fois-ci, mais c'est elle qui traduit énormément, notamment de communiqués de presse. On a fait beaucoup de progrès là-dessus, sur la diffusion de nos idées en anglais, et c'est à elle qu'on doit cette meilleure visibilité. Donc merci à tous ces membres qui nous aident, qu'ils soient permanents ou bénévoles. Magali, rapidement, transcription, il paraît que ça transcrit un peu partout dans le territoire français et également en Guadeloupe. Raconte-nous ça rapidement.
Alors le groupe Transcription, il fait quelque chose d'assez rébarbatif, c'est-à-dire qu'il écoute des vidéos ou des fichiers audio et ensuite il tape du texte. Et comme ça, ces fichiers sont plus facilement indexables et réutilisables par d'autres. Ils sont aussi accessibles, donc on fait un travail avec le groupe Accessibilité. Tous les mois, ou presque, voire plusieurs fois par mois, on se réunit pour s'attaquer à un fichier assez important. Donc ben, au mois de février, il y a une transcript partie le 23 mars, un jeudi. Et on s'attaquera à la soirée candidat, qui a eu lieu mercredi dernier ou mercredi d'avant. Voilà. On ne fait pas que ça. On essaye de se réunir pour voir s'il n'y a pas des méthodes de travail différentes qui pourraient nous aider. Cette année, grâce à François Boulogne et à une autre personne qui s'appelle Mamig, qui n'est pas là, puisqu'elle n'est pas parisienne, on s'est attaqué au sous-titrage. L'avantage des AG, c'est qu'on se rencontre les uns les autres. Et j'ai discuté avec Benjamin Sontag, qui nous a dit « Oh, mais c'est trop facile, les sous-titrages, je vais vous montrer. » Donc, bah, Benjamin, on t'attend.
Il nous a produit une vidéo qui éclairerait tout le monde sur comment faire. Donc.
Ça marche pas. Voilà. Si vous voulez plus de détails, on a un wiki qui permet de voir quels sont les travaux qui sont en cours. On a toujours besoin de relecteurs. Donc, si vous n'avez pas envie de taper, la relecture, c'est donné à tout le monde. Et c'est indispensable pour nous. Je pense qu'à ce niveau-là, le groupe traduction a aussi besoin d'aide. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir le wiki et les deux sites. Et donc oui, forcément, la réunion guadeloupéenne, je vis avec un geek qui est parti travailler deux mois en Guadeloupe, et on en a profité pour rencontrer le GUG local qui s'appelle Guadaloug, qui est animé par Olivier. Et donc ben, c'est une réunion qui a eu lieu et dont vous avez une photo ici. Et au départ, on devait transcrire, et puis finalement, bah, vous connaissez, hein, on a discuté, refait le monde, rediscuté, et bah, ça a quand même fait une réunion assez sympathique, parce qu'il faut savoir que toutes les réunions du groupe Transcription sont sympathiques. Voilà. Il n'y a pas d'alcool, parce que ça aide pas. Par contre, on a du lait à la fraise, on a des jus de fruits, on a des chips, on a aussi de la mâche, donc bah, faut pas hésiter à venir nous rejoindre.
Donc voilà, si vous voulez découvrir la mâche guadeloupéenne... groupe de travail transcription. Et puis, il y a des groupes de travail qui ont une activité peut-être un petit peu plus modeste, mais c'est aussi grâce à ça que bah, on arrive à faire avancer certaines choses.
Donc, le groupe Causerie est un groupe qui a été actif, il l'est moins depuis quelques temps. Et ça a donné l'occasion de se mettre en ligne sur un chat type IRC, et de permettre aux gens d'interroger une personne sur un domaine particulier. Donc ces causeries, c'est pas très compliqué à organiser, et voilà, pour l'instant on manque d'un animateur pour relancer ça. Donc voilà, si ça vous intéresse de passer une heure un soir à animer une discussion en ligne autour du logiciel libre, voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître. Le groupe diversité, l'idée c'est de pouvoir s'interroger sur le fait que il y a un certain nombre de personnes qui ont un peu de mal avec l'informatique ou avec le logiciel libre, et notamment c'est parti du constat qu'on avait à l'April environ 6% de membres femmes. Donc on s'est posé quelques questions, on s'est dit tiens, c'est bizarre, normalement ça devrait être plutôt 50-50, enfin autour de ça. Et donc de ce questionnement, je vais y arriver, on a décidé de se poser un peu la question et de voir s'il y avait lieu de faire quelque chose ou si c'était juste bah, normal. On a une action qui s'appelle Libre en fait, qui est très intéressante parce que vous avez tout un tas de cyberbases ou de lieux dans tout un tas de communes où il y a de la formation à l'informatique, et on encourage dans ces lieux au moment du printemps à créer des petits événements festifs, c'est-à-dire à faire venir les gens, à faire des journées portes ouvertes, des ateliers de formation sur tel ou tel logiciel. Et ça, c'est quelque chose qui s'anime assez bien aussi, c'est pas très compliqué à faire.
Mais voilà, on manque un petit peu de personnes pour pouvoir animer la machine pendant les quelques jours que dure l'opération. Donc là aussi, si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. Et puis, le site web, le wiki, ce sont des groupes où pour l'instant, on n'a pas d'animateur de notre site web. Pour le wiki, on a François Boulogne, que vous avez entendu tout à l'heure, qui fait un super travail de fond qu'on appelle le jardinage du wiki, c'est-à-dire en gros, il enlève les spams, il vérifie que tout est bien catégorisé. C'est typiquement les boulots ingrats qu'il accepte de faire.
Et mais... il y a eu un boulot encore plus ingrat qui s'est tapé toute l'année, et je veux le remercier pour ça. C'est tout le travail autour des licences, des contenus graphiques qu'on héberge sur le wiki. On a fait le choix de publier tout ce qu'on a sur le wiki en triple licence, Art Libre, Creative Commons, by SA, GFDL. Et il se trouve que sur les contenus graphiques, il y a certaines exceptions à faire. Et François a fait un travail terrible de référencement de l'information, de contact des différents contributeurs. Il vous a peut-être embêté un petit peu là-dessus si vous avez contribué, mais sachez que c'est une tâche qui est ingrate, qui est très utile, qui nous permettent de revenir dans les clous parce qu'on était un petit peu borderline là-dessus. Donc François, merci beaucoup pour ce travail.
Et sur le, par contre, le site web en lui-même, eh bien actuellement on manque d'animateurs. Alors ça paraît assez étonnant pour une association qui est composée de très nombreux informaticiens, mais on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc là aussi, on cherche des bonnes volontés, et notamment demain, lors de la réunion des membres, on fera un atelier sur le site web pour voir comment on peut s'organiser pour que tout ne repose pas sur simplement une ou deux personnes, mais qu'on puisse un petit peu se distribuer les tâches à faire.
Alors il se trouve qu'on a eu un certain nombre d'autres actions en termes de promotion, et on est un petit peu en retard, mais juste on est présent dans pas mal de conférences. On a fait 40 conférences aux tables rondes cette année. Merci à tous ceux qui sont venus les animer, les réaliser. Je pense notamment à Lionel qui est très actif en la matière, mais également à tous ceux qui sont venus nous écouter et qui par ça, nous aide à diffuser nos idées. Et on a organisé des stands. Merci à Aurélia notamment, qui aide en amont à la préparation des stands, et à tous les bénévoles qui font que les stands soient animés et que les gens qui ne connaissent rien au logiciel libre découvrent les enjeux qu'il y a derrière le partage de l'information numérique. Donc voilà, merci aussi à Sensibilisation qui font des trucs qui sont vraiment cool, qui permettent de quels sont les enjeux qu'on essaye de défendre. Et puis il se trouve qu'on ne travaille pas tout seul, c'est aussi une spécialité de l'April, c'est de travailler en bonne intelligence avec plein de structures. Je parlais de EPI tout à l'heure, dont Jean-Pierre est président. Vous l'avez vu autour de notre initiative du PAC Liberté, pacliberté.org. Si vous aimez le rose et les petits chatons, vous allez être comblés, qui nous permettent de trouver de l'argent pour nos amis, pour nous, mais également pour nos amis de Framasoft et de la Quadrature. Je vous ai parlé aussi pas mal, enfin on vous a parlé pas mal des différentes communications qu'on peut faire avec la Quadrature. Ce soir, on est hébergé par Silicon Sentier, qui nous met à disposition sa cantine numérique. On est adhérent de Wikimedia France, on travaille notamment sur les marchés publics avec le CNLL, le Conseil National des Logiciels Libres. On travaille au niveau international avec les Italiens d'Assoli, avec Hispalinux, les Espagnols, avec l'OFE au niveau européen, avec la FSF évidemment et sa représentation nationale, la FSF France. La Cité des sciences et de l'industrie, l'OLIX qui nous permet, si jamais vous cherchez du boulot, de pouvoir, ou si jamais vous êtes adhérent, membre d'entreprise, de pouvoir valoriser votre adhésion au sein de l'OLIX, et donc comme ça de sans doute rencontrer les meilleurs profils en termes de logiciels libres. On travaille avec l'AFUL sur la vente liée et sur l'interopérabilité avec la DGCCRF, je vous en ai parlé tout à l'heure. Intelligent TV qui nous permet de relayer et de mettre en vidéo nos différentes actualités. Open Document Foundation et LibreOffice, qu'on essaye d'aider très très régulièrement. Le Crédit Coopératif qui nous participe au financement du catalogue du libre. La FPH, merci beaucoup Vincent et à toute l'équipe de la FPH pour de nous héberger pour plein de choses. Vraiment merci. Ubuntu FR, on peut les applaudir, c'est vrai. Et cette année, un merci particulièrement spécial à Mozilla Europe. On n'a pas encore communiqué dessus, mais on va bientôt le faire. Il se trouve que Mozilla Europe, la fondation Mozilla se restructure et a décidé de regrouper toutes ses activités sous la bannière Mozilla Foundation. Et ça veut dire que la Mozilla Europe est dissoute d'un point de vue juridique. Et son budget, ils font profiter du reliquat de leur budget à un certain nombre d'acteurs du libre, dont l'April. On reçoit un budget non négligeable pour cette année d'environ d'un peu plus de 20 000 euros. Donc un grand merci à Mozilla Europe et à la fondation Mozilla pour nous aider comme ça aussi, de manière aussi substantielle pour 2012. Donc merci à eux, vraiment. Et puis, parmi les activités quotidiennes qui sont pas forcément visibles, qu'il est agréable d'agréger à la fin de l'année, c'est toutes nos relations vis-à-vis des médias. On a publié 29 communiqués qui ont été pas mal repris par des communications assez variées. Et puis, je vous parlais d'Intelien Télé tout à l'heure. Et puis, il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir des temps d'antenne, notamment à France Culture, grâce à l'anniversaire de Framasoft avec Wikimedia France. Donc une heure d'antenne sur France Culture pour parler des enjeux du libre, c'est appréciable. Un sujet sur France 3 avec une interview de notre délégué général. Libé il y a quelques jours à travers le pack Liberté qui a été relayé sur Libé Papier. Lemonde.fr sur l'actualité des brevets, bref, plein de choses et qui permet aussi de faire découvrir les enjeux du libre au-delà de nos communautés. Voilà donc pour notre rapport moral. Alors, peut-être que l'explication de toute cette activité 2011 a suscité chez vous quelques interrogations. Peut-être que sur les réseaux de microblogging, on se pose des questions aussi. Le hashtag permet de les remonter, c'est AGAPRIL. Et puis, il se trouve qu'un certain nombre d'entre vous ont voté en ligne et ils nous ont également posé des questions. Donc, c'est l'occasion d'y répondre. Philippe se fera le porte-parole des gens qui ont posé des questions en ligne. Déjà, est-ce que dans la salle, vous avez une interrogation sur l'un des sujets qui a été traité en 2011 et qu'on vient de vous présenter ? Alors, on va, pour histoire de lancer le débat, donner la parole à Philippe qui va se faire le relais de ces interrogations numériques.
Alors, il y a plusieurs commentaires qui sont simplement des encouragements. Je vais commencer par...
Effectivement, il y a beaucoup d'encouragement, ça nous fait chaud au cœur. Le seul truc, c'est que on est un peu court et que là, c'est plutôt. Déjà, le simple fait de continuer à adhérer, à payer sa cotise, à voter en ligne et à venir physiquement comme vous le faites, c'est un encouragement vraiment extraordinaire. Donc, merci. De parler des activités de l'April autour de vous, c'est pareil. C'est hyper positif et merci de continuer à le faire. On va plutôt se focaliser sur les questions concrètes qui nous sont posées.
Alors, une première intervention, c'est « Espérons sur 2013 un rapport moral qui présentera une action-opération en Guadeloupe où les membres sont les bienvenus. »
On l'a vu à travers le compte-rendu notamment de Bookinet sur transcription et on a des activités dans les départements. On a eu l'occasion d'en discuter ce matin des activités à La Réunion. C'est vrai que c'est pas parce qu'ils sont loin de la métropole qu'il faut les oublier et on tente de pas oublier nos compatriotes d'outre-mer.
Une question qui est, c'est quoi l'affaire Angie avec trois points d'interrogation selon l'avocat.
C'est quoi, pardon?
C'est quoi l'affaire April Angie?
Trois
points d'interrogation selon l'avocat, quelles peuvent être les conséquences?
Alors, je pense qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est Angie, c'est le directeur des systèmes d'informatique de la ville de Marseille, qui s'est senti offensé par un de nos communiqués et qui a décidé de porter plainte au tribunal de Marseille contre moi, puisque je prenais la parole dans ce communiqué de presse, contre l'April qui s'exprimait, contre Framasoft, et de manière plus inquiétante contre l'un de nos membres pour avoir laissé un commentaire sur un blog. S'attaquer à une association, on peut imaginer, lorsqu'elle fait un communiqué de presse, on se pose toujours la question de ce que ça peut porter, mais contre un simple citoyen qui n'a d'autre qualité que d'être électeur à Marseille, on trouve ça extrêmement surprenant. Sur les risques juridiques, notre conseil nous dit que les risques sont relativement limités. Ils ont des conséquences budgétaires, on vous les présentera tout à l'heure, puisque il faut bien payer cet avocat. Mais a priori, ce n'est juste de l'avance de trésorerie, puisque d'après notre conseil, notre détracteur pourrait être condamné aux dépenses, c'est-à-dire qu'il pourrait devoir s'acquitter de nos frais de justice, parce que nous, on n'a rien demandé, juste de défendre... on a partagé notre vision du code des marchés publics et on n'a rien fait de plus.
Je suis très étonné du parisianisme, avec plusieurs paires de guillemets, de l'association. Il souhaiterait ardemment qu'elle ait des ramifications plus régionales de par ses abonnés et ses adhérents. Non, abonnés est vraiment dans la question.
Mmh. Bon, oui, je pense que là, c'est juste une maladresse. On ne va pas se formaliser pour ça. C'est effectivement une critique qu'on a régulièrement. Comme je vous l'expliquais, lorsqu'on essaye de dialoguer avec les institutions françaises, étant dans un pays jacobin, il se trouve qu'elles sont majoritairement à Paris. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de nos activités qui sont de s'adresser à ces institutions parisiennes. Mais ça, ce n'est pas lié à l'April, c'est lié au fonctionnement démocratique français. Par contre, ça n'empêche pas, comme je vous le rappelais, d'avoir des adhérents partout en France. Ça n'empêche pas ses adhérents de s'impliquer à l'April et d'être actifs. Donc ce que j'aurais tendance à conseiller à cet adhérent, c'est de venir sur IRC par exemple et de participer à montrer par l'exemple que l'April n'est pas une association parisienne. Je vois plein de têtes de non-parisiens dans l'assistance qui ont fait l'effort de venir lors de cet AG. C'est extrêmement réjouissant, merci beaucoup. Et au sein du CA, on est, je ne crois pas qu'on soit majoritairement parisien. On parlait de notre amicale toulousaine au sein du CA, Pierre qui est à Bruxelles, Jean-Christophe qui est à Digne, Jonathan qui est à Soissons, pardon. Et j'en oublie plein, Anaïg qui est à Nantes, Xavier qui est de par le monde, un citoyen du monde, Philippe à Lille effectivement. Je comprends l'argument, mais je crois qu'il est Il est un peu en dehors de la réalité quotidienne du travail à l'April.
Et donc une dernière qui est plus sous une forme de remarque. Un jour, dans un monde meilleur, on verra plus d'une liste présente. Ça me fait toujours un drôle d'effet de voir une seule et unique liste comme on en voit dans des pays fort peu démocratiques.
Alors, c'est effectivement une remarque qu'on nous fait régulièrement, mais il se trouve qu'on en discutait hier soir, notamment avec Vincent. La démocratie dans le monde associatif, c'est un peu différent que de la démocratie dans un pays. Parce que les citoyens, ils n'ont pas le choix d'adhérer ou non à leur pays. Alors que dans une association, on adhère à l'association. Donc une manière de ne pas être content avec la gouvernance de l'April, c'est de ne pas être membre de l'April. Après, effectivement, on a une gouvernance qui a été choisie, qui est de notre statut. Et il nous semblerait sans doute... moi personnellement, c'est pas le CA ni le président qui s'exprime, mais je pense que le jour où l'April, on vous proposera lors d'une AG de l'April deux listes, ça veut dire qu'il y a un problème au sein de l'April. Ça veut dire que les gens sont plus capables de travailler ensemble. Il y a des visions qui s'opposeraient de telle manière tellement forte que les gens se sentiraient de créer une liste dissidente. Et donc ça, je crois que d'un point de vue du bon fonctionnement de l'objet social de notre association, ce serait beaucoup plus inquiétant que le fait que, effectivement, on ait des votes qui soient extrêmement favorables au travail accompli par le conseil d'administration et l'ensemble des permanents. Mais encore une fois, on peut ne pas adhérer à l'April. Donc c'est une forme de soutien d'adhérer à l'April et je vous en remercie. Et il y a une autre forme de soutien de voter, puisque ça fait partie, malgré tout, de la gouvernance qu'on a choisie lors de la création de cette association. Donc je pense que le parallèle simplement démocratique entre une démocratie à l'échelle d'un pays et une démocratie à l'échelle d'une association n'est pas forcément des plus judicieux. Après, si je me souviens bien, il y a aussi une remarque régulière et il me semble que... Enfin, ça me surprend qu'on n'ait pas eu la question de la féminisation de l'April, donc je vais la poser. C'était sous la forme d'une remarque. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Lionel en a parlé tout à l'heure. On a un groupe de travail diversité qui vise à faire en sorte que l'April ne s'adresse pas qu'à des geeks barbus qui ont connu des logiciels libres en compilant des noyaux Linux. Ou des noyaux BSD. On essaye de participer à la diversité de. Enfin, on se pose des questions de comment participer et faire en sorte que cette association s'adresse à tous. Alors, ça veut dire quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses opinions religieuses, etc., etc., et ses choix de vie. Donc, évidemment, ça nous pose question. Évidemment, on trouve dommage qu'il y ait majoritairement. Des garçons qui s'impliquent à l'April que des filles. On réfléchit à comment le résoudre et on n'a pas trouvé la formule magique. On peut faire des quotas, effectivement. On n'a pas le côté un peu dictatorial des quotas nous a jamais vraiment, ne m'a jamais personnellement vraiment trop convaincu, mais si quelqu'un veut l'expérimenter dans son groupe de travail, je veux bien, on peut faire un groupe de travail quotas, si vous voulez. Voilà, c'est... C'est une vraie question. On n'a pas trouvé de solution. Je peux juste me féliciter que parmi nos permanents, il y ait une majorité de femmes. Et ça, c'est cool.
On va peut-être s'arrêter là.
Est-ce que juste il y a des questions au sein de l'Assemblée ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a répondu à toutes vos interrogations? Une question. Oui, c'est ce que je disais, chez les permanents, et c'est vrai que au local également. Très bien, et bien on va passer à la partie la plus formelle, c'est-à-dire celle du vote. Donc je vous rappelle les règles. Si vous avez voté en ligne, et bien vous avez déjà voté. Si vous n'avez pas voté en ligne, on vous a donné des petits tickets de couleur. Donc le vert, c'est l'espoir et c'est oui. Le bleu, c'est non. Et le rose, c'est l'abstention. Vous n'avez pas d'opinion, vous avez le droit de ne pas avoir d'opinion à l'April, il n'y a pas de problème. Il y a deux personnes, donc on va attendre que le collège des votants soit complet. Alors, juste d'un point de vue statutaire, okay. D'un point de vue statutaire, sachez qu'on a un quorum à 877 votants. Donc, pour que l'AG puisse se tenir et pour que les votes soient valides, il faut qu'il y ait un tiers des membres à jour de cotisation qui participent au vote. Et donc un tiers des adhérents de l'April, 30%, oui, donc ce n'est pas totalement un tiers. Ça veut dire 877 votants. Et sachez que je peux déjà vous dire que le quorum a été atteint, puisqu'on a la chance d'avoir une plateforme d'expression numérique de vote en ligne qui nous est offert par l'entreprise de Entrouvert, l'entreprise dont Pierre est coopérateur. Donc merci à vous pour la mise à disposition de cette plateforme et pour le temps que vous dédiez à l'April dans votre vie professionnelle pour nous mettre à disposition cette plateforme. Donc le quorum a été atteint puisque si tous les votants sont dans la salle, nous sommes 1029 à participer à ce vote. Incroyable. Donc merci à tous les votants. Donc, bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de lever vos petits tickets lorsque vous voudrez voter d'abord pour vous abstenir. Ensuite, je crois qu'on va faire le vote contre et le vote pour à la fin. Donc, on va mettre en vote le rapport moral. Est-ce que vous jugez que le rapport moral doit être publié et doit faire partie de l'histoire de l'association? Donc, si vous n'avez pas d'opinion, je vous invite à lever votre petit ticket rose ou vos petits tickets roses si vous représentez des gens. Très bien pour les abstentions. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposeraient au rapport moral 2011? Je pense que tout le monde pouvait s'exprimer là-dessus. Et ceux qui votent positivement le rapport moral peuvent lever leur petit... Alors vous voyez, une aberration démocratique, encore une à l'April. Le président a un nombre de bulletins de vote honteux. Très bien. Alors, il y en a qui ont un seul ticket, mais qui représentent quand même 6 personnes. Donc Magali, tu as autant de pouvoir que moi, je te félicite. Merci d'avoir pris part à ce vote. Nous venons de dépouiller le vote. Le rapport moral, ont participé au vote 1029 personnes. Se sont opposés au rapport moral, 0. Se sont abstenus 44 votants et ont voté oui 985. Le rapport moral est adopté. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause, à laisser réchauffer quelques instants. Il y a des gâteaux, donc ça c'est vraiment cool. C'est l'heure du goûter et on se retrouve d'ici 10 minutes pour aborder les aspects financiers de notre activité 2011. Merci beaucoup.